Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut la team Extraterrien, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un titan du trail, probablement le trailer qui aura le plus marqué l'année en 2023. Et il s'agit de Aurélien Dunant-Palaz. Si tu ne le connais pas, il a tout simplement gagné des quatre ultra trail majeurs de l'année 2023. Ça a commencé cet été avec la Hard Rock, cette course mythique aux 150 participants qui se passe dans le Colorado, qu'il est allé gagner du coup aux États-Unis, notamment pacer avec son ami Ludo Pommeret. Et il va nous raconter un peu quelques histoires de ce pacing avec ce grand ultra-trailer également. Et il a doublé la mise en octobre sur la Diagonale des Fous à La Réunion. Donc c'est tout simplement une énorme perf. Hein. Il rentre dans le cercle très privé des ultra-trailers qui ont réussi à gagner deux majeurs dans leur vie. Et lui, il l'a fait la même année. Donc assez exceptionnel. On est allé tourner cet épisode à Annecy, à côté de chez lui, dans un petit cycling house que j'adore, qui s'appelle Machi. Ils ont aussi une marque de vélo que vous pouvez aller regarder. On les remercie pour leur accueil. C'était très sympa. On était posés, on avait du temps. On a pu du coup discuter avec Aurélien de tout, de ses débuts en foot, de ses joueurs préférés, bien sûr, mais aussi de son changement de statut cette année après ses différentes victoires. On a pu lui demander aussi des anecdotes sympas sur les deux courses qu'il avait du coup gagnées cette année. C'était vraiment un épisode très chouette. Je suis content d'avoir passé ce moment avec Aurélien. Je trouve qu'on a bien connecté et qu'on a pris le temps de faire un super épisode ensemble. On a aussi parlé d'entraînement, vous allez le voir, avec de l'hypoxie. C'est la méthode qu'a beaucoup utilisé Aurélien pour s'habituer à l'altitude. Donc bref, vous allez voir, c'est un épisode ultra riche, ultra dense, dans lequel il y a plein d'infos et aussi quelques moments de rire. J'espère que ça va beaucoup vous plaire. Je vous embête pas plus et je vous laisse avec ce titan de l'ultra-trail, Aurélien Dunant Palas. Bon épisode. Salut Aurélien.
Salut.
Comment vas-tu ?
Ça va bien, il fait beau, on est à Annecy, donc tout va bien.
Ouais, bah écoute, merci infiniment de prendre le temps là sur cette fin d'année qui a été époustouflante, j'imagine riche en bons moments et aussi en sollicitations médias. C'était facile de préparer cette interview, il y avait beaucoup de passages, donc je sais que tu y as consacré beaucoup de temps, donc merci infiniment de m'accorder ce temps. Plus je sais qu'on a quelques semaines de ton anniversaire.
Ouais, c'est vrai.
Et la fin d'année, donc j'espère qu'on va clôturer l'année en beauté ensemble.
Il n'y a pas de raison.
A priori, t'es entre de bonnes mains, tu peux faire confiance. D'ailleurs, je digresse un peu, mais ces deux victoires cette année, ça t'a propulsé quand même. Moi, j'ai l'impression. Alors, moi, je te suis depuis 2020. Ce qui m'avait marqué, c'était le record de dénivelé que t'avais battu en 2020, mmh. Où j'étais dit ah là, on est sur du très très solide. Mais là, j'ai l'impression quoi depuis 6 mois, on te voit partout, t'es hyper sollicité. Comment est-ce que tu le vis toi?
Ouais, c'est clairement ces deux grosses victoires sur le plan international, ça a un peu changé la donne. Hein, c'est vrai, j'avais une deuxième place à l'UTMB en 2021, mais un petit peu étouffé par la suite parce qu'en 2022, j'ai été blessé un peu toute la saison, mine de rien. Donc, je pense ça m'a un peu fait rentrer dans le rang. Et, okay. Et là, je suis revenu au top au niveau de la forme cette année. J'en doutais pas, mais voilà, fallait réussir mes objectifs. Et ça a été fait la plus belle des manières sur la Hard Rock et la Diagonale des Fous. Donc, c'est sûr. Après, il y a des sollicitations, oui, bien sûr, aussi. Ça fait partie du jeu. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Faut juste savoir quand les faire, faut pas que ça empiète sur la préparation, sur le temps familial, sur les périodes de récupération, mais voilà, ça fait partie du jeu, comme je dis toujours, ça fait partie du taf, et c'est pas déplaisant non plus, donc ça me gêne pas trop, non.
Ok, bah écoute, merci, merci de répondre, mais c'est vrai que je me dis, j'avais lu une étude sur des athlètes, tu vois, post JO. Je sais pas si d'ailleurs ils en parlent dans le documentaire Strong, où le lendemain en fait des grandes victoires, t'as une hyper sollicitation et puis t'es hyper visible, t'es hyper sollicité, t'es dans un engouement médiatique très fort. Et puis après ça redescend et tu vois certains athlètes vivent un peu, tu vois, une espèce de d'étouffement, d'autres s'y attendent pas du tout parce que c'est soudain en fait, c'est presque du jour au lendemain. Et dans Strong on voit que certains en font une petite dépression, tu vois, et on se doute pas en fait de l'impact psychologique que ça peut avoir. Donc Je sais pas pour toi, mais toi, t'as l'air d'être plutôt serein.
Ouais, non, j'ai à chaque fois bien vécu les deux fois. J'aime bien juste après les périodes, enfin, juste après une grosse course, justement, j'essaie de répondre à tout le monde parce que c'est le moment où j'ai que ça entre guillemets à faire. J'ai pas de sport, voilà. C'est, et puis quand l'objectif est réussi, c'est quand même plus facile. C'est sûr. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand je vais me présenter sur une grosse course, je pense que qu'on va m'attendre au tournant, j'aurai des interviews. Si je me loupe, ben, c'est peut-être là où je verrai peut-être la différence. Donc, ben, on verra. Mais en tout cas, c'était pas déplaisant. Et puis, on parle de notre sport, ça permet de le mettre en avant, je trouve, de discuter sur les sujets. C'est quand même un sport où on n'a pas beaucoup de recul sur plein d'aspects. Donc, j'aime bien un peu parler de tout et de rien sur le trail. Donc,
okay.
Donc c'est intéressant, je trouve.
Eh ben, allons parler de tout et de rien aujourd'hui. Je te l'ai dit, il y a une question mythique sur le podcast Extraterrien. C'est de commencer un peu par ton enfance, savoir un peu qui est-ce que tu étais quand tu étais plus jeune. Et j'aime beaucoup demander quel est ton premier souvenir de sport ?
Premier souvenir de sport, c'est quand j'étais petit, je ne sais plus quel âge j'avais, je pense que c'était 4-5 ans, et que j'allais au foot dans mon petit village où j'ai grandi à Marteau. Voilà, je descendais en bas dans la plaine et on jouait au foot avec les copains de l'époque. Et c'est les premiers souvenirs que j'ai, en tout cas au niveau du sport, ouais.
Ok, quel poste ?
Alors j'ai fait un petit peu de tout. Là où j'étais le mieux quand même, c'était milieu sur le côté, voilà, celui qui court en avant, en arrière. C'était là où je me débrouillais le mieux.
Ok. Et c'était qui ton joueur phare là, tel que tu me dis, je me dis peut-être, j'imagine un peu un Julie ou peut-être un Pires ou.
Ben non, c'est non, bizarrement pas... c'était Thierry Henry. Je serais même pas. Ouais, je sais pas trop pourquoi. Ouais, l'attaquant Thierry Henry. Ouais.
Bah, impressionnant.
Oui, bien sûr, oui. J'adorais ses buts à Arsenal, je regardais ça. Ouais, j'aimais bien.
Bon, on se lasse pas, hein. Franchement, une petite compilation de tous les buts de Thierry Henry. Ouais. Rentrer dans la surface côté gauche, l'enroulement dans la lucarne opposée, les Gunners qui se lèvent et tout. Non. Ok. Et ton équipe ?
Eh ben, il y avait Arsenal et Lyon.
Okay.
Ces deux équipes-là, ouais. Arsenal et Lyon. J'avais dit à chaque fois les deux t-shirts aux entraînements.
Ok. C'est toi qui es né à Albertville, c'est l'équipe la plus supportée, Lyon.
Ouais, dans le coin, bah c'est un peu la guéguerre dans le coin. On est près de Saint-Étienne, on est près de Lyon. Il y a un petit peu de tout dans le coin, mais ouais. En fait, mon cousin supportait aussi Lyon et je pense que c'est grâce à lui que j'ai aimé ce club-là aussi à l'époque. Ok.
T'es déjà allé à Gerland ?
Ouais, je suis déjà allé à Gerland la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a 3 ans, je crois, il me semble, avec mon beau-père, on était voir Lyon, Paris Saint-Germain, ouais, Lyon contre Paris, c'était l'année où Paris gagnait tout, et Lyon avait gagné ce jour-là, c'est incroyable. Okay.
Ça fait du bien au moral, voir les Parisiens perdre en ce moment. Et donc j'imagine que t'étais fan à l'époque, la grande époque lyonnaise, où avec les gros, toutes les épopées européennes là. Qu'est-ce qu'il a manqué ? Pourquoi ça a pas
Ouais, je sais pas ce qu'il a manqué, mais ouais, c'est sûr que chaque année on les voyait aller en Ligue des Champions, ils passaient des poules et puis ben un coup ils coinçaient en huitième, un coup en quart.
Une fois en demi, je crois.
Ouais, même. C'est ça, une fois en demi, il me semble bien aussi. Ouais. Mais ouais, c'était sympa à suivre et bon, c'est sûr que cette année c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je suis un peu moins le foot, mais bon là je sais où ils sont situés malheureusement. C'est moins glorieux, on va dire.
Ouais, bah il y a toujours un espèce de contre-coup, j'ai l'impression. Ok, bah écoute, merci pour cette petite aparté. Tu penses que c'est une bonne école, le foot, notamment pour le trail, et d'en donner tout le foncier que tu fais quand même, surtout quand tu joues sur les ailes?
Ouais, bah je pense que oui. Alors ma particularité, c'est qu'en fait, à partir de 12 ans, je faisais donc du foot. J'ai arrêté le foot à peu près à 16 ans, je crois, quand j'étais en première au lycée. Et en fait, de 12 ans à 16 ans, entre le moment où je suis entré au collège et la première au lycée, ben je faisais du ski alpin aussi, okay. en compétition. Et du coup, ben l'hiver, je faisais journée de ski où je faisais de l'entraînement, vraiment du piquet. Et puis des fois le soir, bah j'allais à l'entraînement de foot en plus. Donc ça c'est vraiment le foncier, je pense. Et même quand on avait entraînement de ski que le matin, nous on restait au ski l'après-midi. Et je pense que ça j'ai toujours aimé être dehors et faire de l'activité physique. Donc ouais, ça participe beaucoup à je pense avoir entre guillemets la caisse, être habitué à faire des efforts d'endurance, ouais. Enfin du sport toute la journée quoi finalement.
Ouais. Bah, j'en vois beaucoup quand même des trailers qui ont un petit passé de footeux
Ouais,
et
c'est
qui sont
vrai.
passés
Ouais.
par cette case-là. Mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est vrai que ça te développe quand même beaucoup les qualités de chrono, enfin tout ce qui est cardio-respiratoire, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais. Bah, on court, mine de rien, on court. Puis voilà, ce que je fais plus aujourd'hui, un peu des accélérations, de la vitesse. Donc ouais, bah, tout simplement, on court. À partir de là, on se forge un petit peu les articulations, les muscles pour ce sport qui est la course à pied.
Ouais, je sais pas pour toi, mais moi je joue de moins en moins au foot. C'est ce que je pense que je deviens vieux, mais j'ai peur de me blesser, quoi. Maintenant, tu vois, quand je me rappelle le niveau que j'avais quand j'étais ado, à courir partout, à faire des tacles, des roulettes, des grands ponts, à faire des super accélérations, là je me dis aujourd'hui si je me fais ça, mais je me fais les ligaments croisés au direct.
Bah moi j'y pense aussi un peu. Alors j'ai pas l'occasion de jouer, mais si je l'avais, je ferais attention, ouais, pour le risque de blessure, tout à fait. Faire des sprints, j'aurais peur de me claquer par exemple. Un truc que j'ai jamais eu, mais bon, pourquoi
Tu t'es jamais blessé?
pas. Pardon. Au foot, non, je me suis jamais blessé quand je jouais au foot jusqu'à 16 ans. J'ai jamais eu de claquage, d'entorse, quoi que ce soit. J'en
Ok.
ai eu des blessures, mais en trail, mais pas au foot, ouais.
Ok. Et est-ce qu'il y avait l'envie de devenir pro? Comment est-ce que tu voyais le sport de haut niveau quand tu étais plus jeune?
Alors, j'ai jamais eu un niveau au foot. J'avais un bon niveau régional et en ski alpin, pareil. Donc, je suivais beaucoup à la télé le foot, le ski alpin aussi. Mais en même temps, je savais que c'était pas pour. Enfin, j'allais pas atteindre le haut niveau dans ces deux sports-là. Alors, ça me laissait rêveur, c'est sûr. Je pense comme beaucoup. Mais, en étant honnête avec moi-même, je savais que j'allais pas faire d'un de ces deux sports-là mon activité. Principal qui me rémunère, ça clairement. Donc, voilà, ça me donnait envie et ça me faisait rêver, mais c'était pas l'objectif final.
Ok. Donc, pas forcément hyper compétiteur du coup, peut-être.
Ah si si, compétiteur si si, ah, si complètement, parce qu'en ski alpin j'étais vraiment dans un très 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 petit club. Je crois que c'est peut-être le plus petit qui existe en France. On avait un téléski et trois pistes pour te dire. Mais si, dès qu'on avait les entraînements, qu'il y avait des chronos, je voulais à chaque fois faire le mieux. Je fartais mes skis chaque veille d'entraînement, et même au foot j'étais très compétiteur, ouais.
Ok. C'était pas trop dur au foot quand c'était les autres qui faisaient des bêtises?
Ben, aujourd'hui, j'aurais du mal à repasser sur un sport collectif, très honnêtement. Et pourtant, finalement, enfin, j'adorais ça, le foot à l'époque. On jouait dans une bonne équipe. J'étais pas forcément le meilleur, donc on comptait pas que sur moi. Les autres, voilà, je comptais sur certains d'autres, ouais, collègues qui faisaient le boulot au milieu du terrain, par exemple. Donc ça, c'était agréable. Et puis après, bah, les erreurs, bah, ça fait partie du foot, hein. C'est un sport collectif. Faut faire avec. Et non, ça m'a forgé, je pense, un mental, et puis accepter aussi les autres, les erreurs des autres. Donc, non, je pense que c'était une bonne école.
Ok. Parce que j'ai le souvenir d'une discussion avec Alexis Peintureau, qui me disait que lui, il avait fait beaucoup, beaucoup de foot et que ça le rendait complètement dingue quand quelqu'un faisait des conneries, quoi, tu vois, et que du coup, c'était un peu ses parents qui l'avaient dit, bon, on va le mettre sur un sport individuel, comme ça, il va arrêter de pester sur les autres. Et bon, ça lui a plutôt bien réussi, on peut dire. En plus, il vient d'annoncer, je crois, une grosse news. Il veut
C'est
faire du...
quoi?
Et
Ah
je crois qu'il veut se mettre sur du géant à
oui.
100%, ouais.
Ouais, géant, puis même la vitesse, même
Ouais,
super G et
super G.
descente, ouais. Et il arrête le slalom, ouais.
Donc, on a hâte de voir. Beau tempérament. Et à l'école, le petit Aurélien, il est comment?
L'école, Aurélien a toujours été bon élève. Il n'a jamais été dans les meilleurs, mais j'ai toujours été bon élève. Et puis j'ai su, en fait, au moment cruciaux, on va dire, faire ce qu'il fallait pour réussir, voilà, que ce soit au niveau du bac, et puis ensuite au niveau des études supérieures. Voilà, je savais quand il fallait bosser, et puis je savais vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire que les matières qui m'intéressaient pas, ou que je savais qui étaient pas intéressantes pour moi pour la suite, ben je faisais rien pour les travailler. Et à l'inverse, ben, tout ce qui m'intéressait, que ce soit les maths, le côté scientifique, et ben voilà, je mettais vraiment l'accent dessus, et puis ça marchait plutôt bien quand je faisais ce qu'il fallait.
Bac S du coup.
Ouais, bac scientifique pour entrer en STAPS après, pour entrer, enfin j'étais allé en STAPS pour pour rentrer en école de kiné, en fait.
Ah, t'es passé par STAPS avant?
Ouais, okay. En fait.
Combien d'années? Une, deux?
En fait,
STAPS, c'est trois.
Alors, STAPS, c'est trois ans, mais c'est lors de la première année qu'il y avait un concours. C'est-à-dire que ceux qui voulaient aller en école de kiné ont coché une case, on avait deux matières de plus, je crois. Et on avait un concours entre nous, forcément. Et il y avait 15 places, j'ai fini 13e. Donc, grâce à ça, je suis rentré en école de kiné à Grenoble. Et on avait la particularité de faire un double diplôme. C'est-à-dire qu'on continuait STAPS. Et en même temps, l'école de kiné. Donc, ce qui fait qu'on a double diplôme. Ouais.
Ok, d'accord. Bah, écoute, je connaissais pas cette possibilité-là. Je pense qu'effectivement, pour les gens qui font beaucoup de sport et qui sont assez curieux de l'anatomie, et ça, c'est cool. Et du coup, ça te laisse deux possibilités.
Si ouais, t'as alors envie de... en fait, j'ai une licence et même un M1 STAPS sur lequel, bon, je me suis jamais vraiment servi, mais je peux continuer. Je peux continuer mon master, je pourrais faire un doctorat, enfin, faire de la recherche de ce côté-là. Et puis, de l'autre côté, en effet, j'ai mon diplôme d'état de kiné, ouais.
Ok. Et si t'avais pas eu kiné, t'avais que STAPS, tu serais parti sur quelle voie?
Ben, j'aurais continué STAPS, en effet, ouais. À l'époque, j'aurais continué dans la filière qui s'approche un peu du côté kiné, c'est activité physique adaptée, APA. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, après, j'aurais peut-être bifurqué avec le sport, le trail, peut-être dans la filière entraînement qui m'intéresse beaucoup. Donc, peut-être que j'aurais un peu changé en cours de chemin, mais en tout cas, c'est le... C'est côté kiné qui a pris le dessus, quoi.
Ok. Et ok. Non mais en tout cas, merci pour cette possibilité de double diplôme, je la connaissais pas. J'ai oublié de te poser une question sur le foot ou même sur le sport pour les enfants. Vu que toi t'es papa, à quel sport t'aimerais inscrire tes enfants?
J'aimerais, on en parle avec ma compagne et en fait on lui laissera le choix, on va sûrement, quand il sera petit, on lui fera peut-être découvrir de tout et je pense que le côté, on est assez d'accord sur ce point de vue là, le côté sport collectif c'est bien quand même d'être avec les autres et pas que de faire des sports individuels, je pense que c'est quand même bien pour plusieurs valeurs de la vie de tous les jours, de la société, comme tu disais tout à l'heure, accepter les erreurs des autres, quand on dépend des autres, mais c'est, ouais, je pense que c'est important. Et puis après, il fera ce qu'il veut plus tard. S'il me voit faire du trail, que ça lui donne envie, faire du vélo, du ski de randonnée, il fera ça. Et puis s'il veut faire du foot ou je ne sais quoi, on le laissera faire. Hein.
Bon, très bien. Bon, écoute, j'ai essayé, le mien, il a 3 ans et demi, là. J'ai essayé le rugby les trois premières séances, c'était la passion incroyable et là il a plus trop envie quoi. Bon, je sais pas si c'est l'hiver un peu un petit côté individualiste, il a toujours envie de faire différent des autres quoi. Quand les autres se mettent en ronde pour se passer la balle les uns les autres, lui il faut qu'il aille courir de l'autre côté du terrain.
Donc pas fait pour lui.
Ouais, peut-être pas fait pour lui. On réessayera dans quelques années, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé bien là sur le rugby, c'est ils apprennent à se donner la balle, ils apprennent à être coéquipiers, à se rouler par terre, ils font des choses très simples, tu vois. Mais c'est beaucoup sur la camaraderie, le copinage. Ça m'a beaucoup plu, quoi. Je me suis dit que c'était intéressant pour les enfants. Ok. À quel moment tu chausses une paire de baskets et tu prends un dossard?
Et en fait, quand j'ai réussi mon concours en STAPS d'entrée à l'école de kiné, je savais que j'étais pris. C'était fin mai et j'avais tout l'été en fait. Je me suis dit, tout l'été, je travaillais un peu pour me faire 2-3 sous. Et je me suis dit, je vais me mettre à aller marcher en montagne et je vais faire du vélo. Je faisais un petit peu de vélo avant pour la préparation pour le trail. Et tout l'été 2011, du coup, j'ai fait ça. L'hiver suivant, j'ai continué encore le ski alpin à ce moment-là, il me semble, ouais. Et pareil, là, je me suis mis au ski de randonnée. Et mes proches m'ont dit, oh, tu devrais faire du trail l'année prochaine. Et ça m'a appris comme ça. J'ai vu un article de l'UTMB sur le journal local. Et début 2012, j'ai envoyé, je me rappelle, dans 6 enveloppes à 6 trails différents. Et je m'étais inscrit direct en début d'année.
Ah, 6 trails?
Ouais, j'avais envoyé 6 inscriptions au mois de janvier, je m'en souviens. Et dont la dernière était pour le mois de juillet, quoi. Enfin, vraiment à l'avance.
Ok.
Et j'avais déjà couru tout l'été, ça m'avait plu. Couru, marché en montagne, et ça me plaisait. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de se mettre à la compète.
Ok, mais c'est quand même hyper atypique de s'inscrire à 6 courses d'un coup comme ça. Enfin, je veux
Ouais.
dire, pour un athlète pro en janvier, j'imagine qu'il fait son, tu dois faire ton parcours et que là, toi, ton année, elle est déjà toute faite. Tu vois, on en parlera un peu après, mais quand tu débutes une discipline,
Bah ouais, et puis surtout qu'en plus ces distances, ben, le premier trail que j'ai fait c'est un 55 km. J'avais 19 ans à ce moment-là, ouais, c'était, ouais, 19 ans. 55, 3 semaines après, je faisais un 73 km. Et puis dans l'été, après, j'ai refait un marathon, enfin un marathrail 42, et puis mon premier sans borne de 103 km,
Donc, tu avais 19 ans, 20 ans.
ouais. C'est ça. Ouais, j'étais dans ma 20e année, ouais.
Ok. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à tous les gens qui disent qu'il faut pas faire trop de distance quand on est jeune?
Ben, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que les longues distances sont vraiment mises en avant. On parle beaucoup de ça, des ultra trails, que ce soit l'UTMB, Jungle des Fous, ces grandes courses mythiques. Et ça se prête à ce que les jeunes aient envie de faire vraiment ça. Enfin, qu'ils aient envie, mais sans forcément. Enfin, moi, j'avais ce passé un peu quand même de. J'avais couru il y a tout un été, je faisais des sorties longues, j'avais remarqué que j'allais courir 4, 5, 6 heures, et que j'ai jamais eu de blessure, je faisais des longues sorties en vélo, ça me plaisait vraiment. Faut déjà être sûr de ça. Est-ce qu'on le fait parce que c'est connu, ou est-ce que c'est parce qu'on a vraiment envie et qu'on pense qu'on est fait pour ça? Il y en a qui arrivent, hein, il y en a qui le font, et puis, ben, comme un François Dan, il a fait la même chose, hein. Je pense pas, honnêtement, que ça soit faisable pour tout le monde. Après, c'est délicat de dire qui va pouvoir le faire, mais oui, la théorie, enfin, ce qu'on dit tout le temps, c'est de commencer sur des petites distances. Ouais, faut quand même être progressif, je pense, d'un point de vue général. Mais bon, après, quand il y a la passion, vraiment, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai vraiment fait par passion et sans me forcer. Personne me guidait ou me forçait à faire ça, donc, et puis ça s'est bien passé, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Puis j'imagine que si le corps avait pas suivi, t'aurais peut-être
Ah bah
réagi
oui, j'aurais.
différemment.
Ouais, bien sûr. Moi, je suis parti comme ça, sans trop savoir comment ça allait se passer, mine de rien. Et puis, bah ouais, j'ai pas eu de blessure la première année. Je récupérais plutôt bien derrière à chaque fois. Enfin voilà, je réfléchissais pas du tout côté entraînement comme aujourd'hui, mais avec du recul, ben, je pense que tout simplement mon corps il est fait pour ça finalement. Et déjà à l'époque, j'avais pas le même niveau qu'aujourd'hui, hein, mais déjà à l'époque, ça montrait quand même des signes comme quoi, ben, j'étais sûrement fait pour ça.
Ok. Qu'est-ce que tu t'es dit à la fin de ces 6 mois et de ces 6 courses? Tu te souviens de ton état d'esprit un
Ouais,
peu?
ben, en fait, dès la première course, finalement, en fait, c'était une manche du TTN long, c'est du Trail Tour National long. Il n'y a pas de championnat de France sur une course à l'époque. C'était ce championnat-là qui faisait office de course, de champion, de Coupe de France. C'était le Trail Nivolé-Rovard, donc à côté d'ici. Il y avait quasiment, enfin, une bonne partie des meilleurs Français. J'avais fini 10e, donc déjà là, je m'étais dit, putain, mais tu fais 10e. Moi, j'en revenais pas, j'étais premier espoir, j'étais monté sur le podium. Bah, forcément, ça, tout de suite, ça motive. Et là, tout de suite, je me suis tourné vers vraiment le côté performance,
Ok.
comment s'améliorer, comment faire mieux. Et puis toute l'année, bah, je pensais presque qu'à ça. Je m'entraînais, je me reposais. Enfin, voilà, la première année, j'ai tout de suite été baigné dans le bain et dans le bain de la performance, quoi.
Ouais, ok. Je t'envie un peu, je suis un peu jaloux de découvrir un sport et tout de suite y arriver. Bon après je dis ça, c'est venu assez vite pour moi sur ce que je fais, mais c'est dingue quand même cette histoire, tu vois. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça vient beaucoup contredire, ouais, le discours de beaucoup d'entraîneurs qui disent que, tu vois, même sur marathon, oui, le marathon, faut y arriver à partir d'un certain âge. Là, on voit que bah, le nouveau record sur marathon, il a quel âge? 20 ans, 21 ans, je crois.
Ouais, c'est très très jeune.
Ultra jeune aussi. Donc, ça rebat beaucoup les cartes et ces
Ouais, les
discours, quoi.
mentalités ont changé, je pense. C'est vrai, on a parlé avec des copains par rapport au marathon. Puis, eux, il y a quand même une grosse innovation, c'est les chaussures quand même, hein, qui a vraiment changé ce sport, je pense, parce que bah, ils sont ça change complètement la donne d'un point de vue chronométrique. Et puis, enfin, je pense qu'ils se préservent énormément les muscles, en fait, finalement, avec ces grosses mousses, ces grosses amortis. Ça leur permet déjà beaucoup plus enchaîner au niveau des entraînements, alors qu'avant, ils finissaient un marathon, c'était beaucoup de récup. Là, je crois que c'est Mehdi Frère, je crois, il a couru 10 km après son marathon en récup le soir même. Je pense qu'avant ça se faisait jamais, ça, courir un marathon à fond et puis le soir dire de faire 10 km de récup, bon, c'est ouais, ça change la donne. Et puis bah, même, ouais, cette barrière un peu de on est jeune, faut faire que des trucs courts. Ouais, bon, après, un marathon c'est un autre sport, hein, quand même, c'est 2 heures, hein. Nous, on travaille 2 heures, c'est court pour... c'est du court.
C'est l'apéro, quoi.
Ouais, non, mais c'est vraiment du court. Même les jeunes qui font 2 heures en trail, c'est normal, quoi. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'avant, même en marathon, ils passaient pas sur des marathons si jeunes que ça. Et puis, ils faisaient pas tant de kilomètres à l'entraînement. Ça a vraiment changé, ouais.
Et toi, ça t'a jamais tenté, le bitume, de faire quelques marathons?
Non, pas du tout.
Je suis allé chercher un peu.
Je peux chercher. 10 kilomètres, semi, non, je peux chercher. Non, j'ai jamais fait un seul entraînement sur une piste cyclable, sur une piste d'athlétisme. Piste cyclable, un petit peu. J'en ai fait un petit peu à un moment donné. Ça m'arrive faire des séances. Mais maintenant, je privilégie vraiment sur terrain naturel pour éviter au maximum le risque de blessure. Et puis, honnêtement, sur les courses sur lesquelles je m'oriente maintenant, les ultras, voilà, plus de 20 heures de course, c'est pas. Le critère vitesse est, à mon sens, pas du tout primordial. Et non, pour répondre à ta question, ça m'attire pas du tout parce que, très honnêtement, je sais que je suis pas bon à plat, je suis pas économique, j'aime pas spécialement ça en plus. Et puis, j'ai pas une vitesse de base très élevée, donc j'ai pas forcément envie de travailler ça.
Ok. Ouais, puis, est-ce que tu penses que ça peut être un défocus pour certains athlètes? Enfin, moi, j'apprécie beaucoup, tu vois, la perf de Mathieu, d'essayer, tu vois, au moins essayer, tu vois, d'aller sur marathon et de se tester, de le faire dans les bonnes conditions avec pacer et tout. Moi, je me pose la question. Alors après, je suis pas athlète pro, tu vois. J'étudie la haute performance, mais je me dis, est-ce que ça fait pas un objectif de trop psychologiquement? Le corps, il peut l'encaisser, c'est sûr, mais psychologiquement, d'avoir deux plans d'entraînement, c'est une gestion qui est complètement différente.
Je veux pas parler à la place de Mathieu, mais c'est vrai que lui, ça se goupillait bien cette année, parce qu'en fait, il allait faire la Western State, donc une course très rapide, il a fait le marathon des sables après, donc c'était bien réfléchi. Mais après, ta remarque, elle est très bonne, je pense, et je pense que ce qu'il a un petit peu dit dans l'intérieur sport qu'il y avait sur lui, c'est qu'il a fait déjà beaucoup de choses depuis le début d'année, et puis voilà, et après son médiatique autour de lui sur cet événement en plus. C'est sûr que, et puis après, même une Western State, ça va vite, c'est sûr. Moi, ça se gagne à 13-14 km/h, je crois. Après, je pense que c'était plus d'un point de vue motivation. Il avait peut-être envie de faire ça aussi, le marathon, envie de se tester, comme tu le disais. Faut vraiment que ça motive. Moi, je suis pas sûr que l'année aussi, je vais faire la Western State, je suis pas sûr de faire un marathon avant pour autant. Ouais.
Ok, c'est quand que tu fais la Western du coup?
Aïe, aïe, aïe. La Western, en fait, c'est pas, pour l'instant, c'est pas la course qui me motive le plus. Très honnêtement, je pense que j'essaierai de la faire un jour quand j'y essayais, parce que c'est compliqué d'avoir des places là-bas. Ouais. Mais si, quand même, parce que c'est une course mythique. Une année comme cette année, j'aurais bien voulu, parce qu'il n'y a pas eu des conditions chaudes. C'est pas un truc que j'aime bien en général. Mais ça court énormément, et c'est, comme je disais, c'est vraiment pas ma spécialité, vraiment quand ça va vite. Puis je prends moins de plaisir. Je vois comment elle fait la course, tout. Bon, il y a des endroits jolis, mais comme les endroits où il faut vraiment courir sur des pistes, ça m'attire un peu moins. Ouais. Je pense que je ferai ça quand j'aurai vraiment tout réussi, tout fait ce que je veux faire, mais pas pour l'instant.
Ok. Est-ce que ça t'attire moins parce que tu te sens un peu moins bon, ou c'est aussi, tu vois, une question de plaisir de course?
Il y a deux choses. Ben oui, clairement, parce que je sais que je suis moins bon. Enfin, faut que je travaille ce point faible qui est courir un peu plus vite. C'est pas quelque chose que j'aime faire, m'entraîner pour ça.
Ça me fait rire quand même quand tu dis ça.
Ouais, mais c'est vrai. Hein. J'aime pas spécialement ça. Et puis, même si je m'entraînais beaucoup, beaucoup, honnêtement, je ferais pas un podium là-bas. Donc oui, il y a le côté performance qui joue là-dedans. Et puis j'ai remarqué quand je courais vraiment beaucoup à plat, j'ai eu des, en 2016 en fait, et 2018, j'ai eu des opérations aux hanches, et parce que j'avais des douleurs, et suite à ça, quand je cours beaucoup sur du plat, ça me tire quand même assez rapidement les hanches sur le devant, je le vois même sur des sorties longues que je fais des fois, donc je me dis, faire une grosse préparation en ayant des moments où ça tire, je sais pas comment ça passerait aussi d'un point de vue physique, donc pour l'instant j'essaie de repousser ce moment là
okay. Et
pourquoi pas un jour.
Vas-y, bon, on ferme pas la porte quand
non,
même.
Non, non, non.
Du coup, t'as dit, je le ferai en dernier après tout ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qu'on met dans la wishlist ou dans la liste au Père Noël pour Aurélien?
La liste, elle est claire, en fait. Enfin, elle est claire. Je m'étais fait une petite liste de 5 choses que je voudrais réussir, et puis finalement, cette année, j'en ai déjà réussi 2 en plus. Il y avait le titre de champion de France que j'ai réussi en 2018. Ensuite, il y avait la Hard Rock et la Jungle des Fous. Je parle de victoires, voilà, que je rêvais d'avoir. Et bah, finalement, je les ai eu les deux cette année, donc ça c'est incroyable. Ensuite, il y a l'UTMB qui me fait forcément rêver d'un point de vue sportif. Ça sera clairement le plus dur parce que bah, c'est quand même pas le même format de course qu'une Hard Rock ou une Diagonale des Fous. Mais voilà, comme ça, j'aurai toujours ce petit rêve, si j'y arrive pas, bah, d'essayer de gagner l'UTMB. Et puis après, en dernier, c'est pas une course, mais c'est le projet du GR20 en Corse, de tenter le record. Et ça, si, c'est un gros projet que j'ai en tête.
Ok, mais c'est un très beau projet. Beaucoup s'y sont frottés.
Ouais, je sais, ouais.
Qui a le record actuellement?
Lambert Saint-Tilly, le Corse.
Ouais, ok. Bah écoute, ouais, j'en avais beaucoup parlé avec François de ce record parce que il l'a fait, il avait fait un peu, c'est lui qui le dit, hein, un peu à l'arrache, en disant que voilà, ils avaient quasiment pas de bouffe, qu'ils étaient un peu partis sur des coups de tête et tout. J'ai l'impression quand même que ça se prépare quand je vois notamment Annelise. C'est un vrai projet. Quoi.
Ah oui,
il y a
bah...
beaucoup qui s'en remettent pas. Enfin,
ouais, bah François, il l'avait fait. C'est vrai que j'ai regardé toutes les vidéos, tous les trucs. C'est vrai que François, il a une. En plus, il était parti, il pleuvait juste après des pluies. Ses payseurs n'avaient pas suivi à un moment donné. Oui, je pense que c'était pas optimisé à 100%. Et aujourd'hui, ben, tous ceux qui sont allés, ils sont allés vraiment très préparés. Le record, il descend à chaque fois. Donc maintenant, ouais, on peut pas y aller juste comme ça, je pense, pour battre le record.
Ok. Tu t'es donné une date dans ta tête?
Alors pas une date précise, mais je voudrais le faire dans les années qui arrivent là, ouais, dans les 2-3 ans qui arrivent, ouais, je pense que ce sera le bon moment. Je voulais prendre quand même de l'expérience sur le format déjà 100 miles,
okay.
Parce que là-bas c'est quand même 30 heures, hein, donc là bah, j'ai déjà 3 expériences à la fin de cette année, avec l'UTMB en 2021 en plus, donc voilà, ça commence à mûrir dans ma tête de plus en plus.
Ok, selon toi ça serait quoi la course la plus... la plus proche de ce que tu peux retrouver au GR20?
La Réunion, clairement. Ouais, c'est clairement l'île de la Réunion parce que on marche beaucoup, il y a un terrain qui est relativement technique. La Corse est encore différent, c'est bien différent tout de même. Il y a le côté chaleur aussi à la Réunion qu'on peut retrouver en Corse, donc ouais, la Diagonale des Fous.
Ok, j'aurais pas dit ça.
Sur les grandes courses que je connais, après, à mon avis, il y a d'autres courses qui sont peut-être encore plus proches, comme l'échappée belle à Beldon. Et puis, il y a des courses dans les Pyrénées aussi, qui apparemment, mais que je connais pas, pour le coup.
Ok. Bon, en tout cas, c'est un joli programme. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Est-ce que, si on revient il y a un an, jour pour jour, tu vois, début décembre 2022, j'imagine que t'as déjà marqué dans ton programme que tu vas faire la Hard Rock et la Diagonale des Fous à ce moment-là.
Ouais, ben, le tirage au sort a eu lieu last week-end, donc il y a un an de ça, je venais d'apprendre que j'allais pouvoir retourner à la Hard Rock. Et une fois que j'ai eu cette confirmation de Hard Rock, ben, je savais que en parallèle, j'allais faire la Diagonale des Fous parce qu'il y avait trois mois d'écart entre les deux courses, c'était parfait. Voilà, le planning était bien dessiné à partir de là.
Ok. Et où est-ce que tu avais postulé ailleurs? Enfin, est-ce que tu avais un plan bis si tu n'avais pas eu cette Hard Rock?
Bah, j'attendais vraiment en fait ce tirage au sort là pour savoir est-ce que j'allais être pris. Et c'est vrai que ça aurait été compliqué de autre chose parce que je voulais retourner à la Réunion aussi et enchaîner l'UTMB la Réunion, sachant que je n'avais pas réussi l'année d'avant, ça aurait été peut-être compliqué. Donc je sais pas exactement ce que j'aurais fait si je n'avais pas été pris à la Hard Rock 2023.
Ok, donc on revient il y a un an jour pour jour. Est-ce que au moment où t'as cette validation de tirage au sort, est-ce que gagner c'est un rêve ou gagner c'est un objectif très sérieux?
Gagner c'est un objectif, je dirais, parce que l'Hard Rock a quand même cette particularité qu'on est en tant que coureur élite, on est 5-6 à pouvoir gagner, très honnêtement, sur le papier, parce que c'est pas la même densité qu'un UTMB, c'est un système de tirage au sort. Après, ils ont quelques places qui se gardent de choisir comme ils veulent. Il y a l'ancien gagnant qui est pris. Kylian avait fait le choix de pas venir. Donc, on se retrouvait avec des coureurs comme Bennett Mermisol, il y avait Dylan Bowman, puis d'autres Américains. Je savais que c'était des coureurs dans mon calibre, entre guillemets, donc je me suis dit, ben, l'objectif, je peux gagner, je peux. Après, voilà, c'est des formats de course où il peut se passer tellement de choses. choses. Il y a l'altitude, tous ces paramètres-là, fallait gérer. Mais ouais, je me suis fixé cet objectif d'aller gagner. Ouais.
Ouais, parce qu'au moment où toi, tu apprends que tu participes, tu connais aussi toute la start list à ce moment-là.
Exactement. Ouais, à ce moment-là, on connaît. Ouais. Après, il y a un système de liste d'attente. C'est-à-dire que si certains n'y vont pas, refusent de prendre le dossard, bah, c'est la liste d'attente. Mais on voit tout de suite les noms qui sont derrière qui vont être potentiellement pris.
Ok.
Donc, je savais qu'il est présent.
Ok. Et ils sanctionnent pas les gens qui ont postulé et finalement qui annulent ?
Non, parce qu'en fait, je crois qu'il faut le système, je crois qu'il faut payer pour valider l'inscription. Alors après, ben, si tu annules au dernier moment, ben, en fait, dès qu'il y en a un qui annule, hop, ils prennent le suivant sur la liste. En fait, eux, ils sont.
Ouais, ça va vite.
Il y a vraiment deux tirages au sort, il n'y a que 150 places, donc c'est facile de faire ce système. Hein. Un qui part, hop, ils prennent le suivant et ainsi de suite. Et... Ouais, non, mais c'est bien fait. Hein. Enfin, c'est bien fait. Il n'y a pas beaucoup de places, mais ça laisse une chance à tout le monde.
Et combien de participants sur le.
On était 146 au départ, là, cette année.
Ok. Et combien de gens veulent la faire ?
Là, cette année, l'année passée, c'était 2-3 000, je crois, c'est un peu moins de 3 000, c'est 2 700 et quelques. Et après, il y a deux tirages au sort. Il y a un tirage au sort pour ceux qui ont déjà fait la course et un tirage au sort pour ceux qui n'ont jamais fait. Donc, en fait, quand tu as déjà fait une fois, après, tu as déjà plus de chances d'être pris.
Okay.
Ouais, c'est une loterie, mais vraiment, il est très, très, très carré, quoi.
Ok. Ouais, avec un système. Ok, super, super original. Et si on t'avait dit il y a un an, ok, tu t'en gagnes une, tu choisis laquelle ? Je te pose des questions pas faciles. Hein,
ah ouais, c'est pas facile. Non, j'aurais dit la Hard Rock parce que la Hard Rock, j'y retournerai peut-être sûrement moins souvent que la Réunion. Mmh. C'est moins simple d'y retourner. Donc, une fois qu'on l'a gagné, on est déjà bien content. La Réunion, je sais que je peux retourner chaque année, entre guillemets, là-bas. C'est plus simple.
Ok. Qu'est-ce que tu mets en place pour cette prépa, pour cette course qui est si spéciale. Alors, pour les gens qui connaissent pas, moi ce que j'ai retenu, c'est, en tout cas en termes de particularité, tu me diras si je me trompe, mais c'est que c'est une moyenne en altitude qui est très 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 élevée. Mmh. Tu m'as dit 3300.
Ouais, 3350, ouais, en moyenne.
En moyenne, avec, je crois que c'est 13 sommets en tout, qui sont au-dessus des 3000.
Ah oui, ouais, sûrement, on passe au maximum à 4280. On flirte souvent avec les 4000. Il y a plusieurs sommets à 3950, 980 et plusieurs fois au-delà de 4000, ouais. Donc c'est la grosse particularité, ouais.
Donc c'est vraiment de la course de très haute montagne, on peut dire. Ça, c'est la première chose que j'en retiens. Donc il y a des alternances de chaud et de froid assez importants durant la course. Et la deuxième chose que tu disais, c'est qu'il y a énormément d'eau et de rivière sur cette course, du coup vous avez les pieds trempés quoi tout du long.
Ouais. Bah en fait l'an dernier c'était une année où il y a eu beaucoup de neige tout l'hiver.
Ok.
Et du coup on s'est retrouvé au mois de juillet, il restait encore beaucoup de névé, la fonte elle était encore présente, donc on traversait beaucoup de rivières et c'était très très humide et j'avais j'avais vu sur les images qu'on croisait une rivière dès le début. En fait, tu pars, tu fais une demi-heure et tu croises une rivière. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une, mais en fait, non, il y avait des ruisseaux de partout, de partout. C'est très, très sauvage comme course. On est au milieu de la nature. Et ouais, du coup, on a les pieds trempés du début à la fin de la course. Même si on change les chaussures, ça ne sert à rien parce que en fait, tu les changes et une demi-heure après, tu les remets dans les rivières. Donc,
Ça te fait pas peur, ce truc que tu n'as pas prévu ?
Peur non, parce qu'en fait en général je disais toujours que quand il pleut j'aime bien, enfin quand j'ai les pieds mouillés j'ai jamais eu de soucis, sauf que là j'en ai eu un peu parce que en fait c'était mouillé, mais après on se retrouvait sur des pistes forestières par moment en plein soleil la journée et ça a un petit peu macéré, donc forcément il y a eu quelques ampoules et du coup voilà, des douleurs que j'avais pas spécialement prévues, mais après c'est un peu c'est l'ultra trail, hein. Faut vraiment s'adapter. On a toujours des choses qu'on prévoit pas, la Réunion j'ai la même chose, enfin il y a toujours des aléas et ça fait partie de l'adaptation qu'il faut avoir sur ce format de course là.
Ouais c'est clair. Je sais, enfin pour avoir rencontré quand même pas mal de trailers et d'ultra, les pieds c'est quand même un peu rageant quoi.
Ouais, parce
que c'est des petites douleurs qui sont.
Bah forcément, quand on court et qu'on a mal aux pieds, ça devient vite compliqué. Puis on y pense tout le temps. Enfin, ça appuie dessus. Mais bon, après, faut passer au-delà de la douleur. Hein. On n'a pas trop le choix. Hein.
Elle était où toi, ton ampoule ?
Sous le gros orteil, je crois. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'appuyais sur un rocher, aïe, ça fait mal, et Je crois que j'avais essayé, j'ai changé de chaussettes à un moment donné, mais en fait, ça, comme je disais, ça servait à rien parce que juste après, j'ai remis les pieds dans l'eau. Mais bon, pendant la course, ça m'a fait mal, mais ça m'a pas non plus fait perdre une demi-heure de temps.
Ok. C'est quoi la technique? C'est, il faut la percer, arracher la peau, tu mets un pansement, c'est,
La
t'as fait
course.
comment toi?
Non, j'ai rien fait. Pendant la course, j'ai rien fait. J'ai mis de la noque. J'avais demandé, c'est ma mère qui, je crois, qui me faisait ravitaillement. On a mis de la noque pour que ça glisse un peu. Non, j'avais pas percé. Après la course, oui, mais sur le moment, j'ai laissé comme ça et puis, sans
Ok.
fallait avancer.
Il n'y avait pas
Ouais, fallait pas trop
le choix.
réfléchir.
Mais tu vois, je me demande comment je réagirais, tu vois, sur.
Ouais, faut pas. En général, quand j'ai un problème, j'ai sur des courses-là, comme à La Réunion, je suis tombé, je me suis ouvert les doigts, trucs comme ça. Bah, j'essaie de pas faire abstraction que sur ce truc-là. Si tu te focalises sur ça, tu te dis, ah, ça va pas, j'ai mal. Bah non, ça commence à être le cercle vicieux, je trouve. Et non, faut essayer de garder des pensées positives pour avancer, parce que sinon, ça peut vite basculer dans la tête, je pense, pour quelqu'un qui est un peu fragile, on va dire.
Tu te répètes, toi, du coup, des mantras positifs, tu vois, dans les moments un peu durs. Je sais pas, oui, est-ce qu'il y a des phrases qui reviennent un peu souvent? Moi, je sais que j'ai beaucoup ça, tu vois. Moi, les grosses journées où c'est un peu dur, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans le sport, j'ai, tu vois, j'ai quelques phrases qui reviennent et j'ai la méthode Coué où je vais me les répéter 150 fois et ça marche, en fait, en vrai. Enfin, sur moi, en tout cas, ça marche. Toi, t'as un peu ce même système-là pour évacuer quelque chose de négatif ou au contraire pour.
Non, pour évacuer le négatif, ben, comme je disais, j'essaie de focaliser, ouais, j'essaie de d'oublier ça rapidement, dans la mesure du possible. Et ma technique un peu en course, c'est ouais, j'essaie de garder des pensées positives, d'imaginer la ligne d'arrivée. M'imaginer passer en première position la ligne d'arrivée, par exemple, c'est les moyens de, ouais, de garder des pensées positives, en fait. Pas être dans le négatif à se dire, ah, les autres reviennent, ah, j'ai mal aux jambes, enfin, ça, c'est sinon, c'est, ouais, c'est dur, quoi.
C'est
Ça
fatal.
l'aide déjà, mais,
Ouais.
ouais, c'est fatal, sinon, ouais.
Oh ouais, c'est clair. On se met dans l'eau rouge, donc autant voir la pièce du bon côté, quoi. Hyper intéressant. Comment est-ce que tu. Ouais, du coup, ce que je serais curieux de savoir, c'est pour. On a dit un petit peu les spécificités de la hard rock. Comment est-ce que tu t'organises, tu vois, au niveau assistance, au niveau un petit peu voyage? Tu m'as dit quelques mots là juste avant qu'on commence l'interview et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on l'entend rarement en fait finalement ces choix-là. Là, je crois que du coup ta compagne ne pouvait pas venir. Comment est-ce que tu arbitres du coup sur ces choix et comment est-ce que tu adaptes ta préparation et tout l'avant-course pour arriver au mieux sur place?
Ben déjà, j'essaie de réfléchir en début d'année sur la globalité de la saison, c'est-à-dire quel moment je vais être sur des gros événements. Là, c'était voilà, l'Hard Rock, l'Île des Fous, c'était deux gros déplacements à l'étranger. Faut prendre l'avion, faut organiser le voyage, qui vient, faut louer une voiture sur place, faut louer une maison, une voiture. Qu'est-ce que je vais faire sur place? Ouais, États-Unis, je connaissais pas du tout. Je voulais reconnaître certaines parties de la course. Donc ça, ouais, ça s'est organisé à partir du moment où j'ai su que j'allais aux États-Unis, puis vraiment en janvier, février. Et je crois qu'on a réservé en février nos billets d'avion pour les États-Unis, donc avec mes parents, avec ma tante et son ami et une autre personne proche de ma famille. Donc on est parti à 6, on est parti à 6, ouais, là-bas.
Ok.
Donc là, on a commencé à réserver maison, voiture, et puis après, bah, là-bas, j'ai regardé les reconnaissances, comment je pouvais organiser ça. Je partais avec des gens qui allaient quand même voyager aussi, donc je voulais pas que tout soit tourné autour de moi. J'essayais de faire des recos. Voilà, ils me posaient un endroit, ils me récupéraient un autre, puis je leur disais, bah, vous pouvez faire telle balade, vous pouvez faire ça. Ils adoraient marcher. On essayait de penser à tout, un petit peu en amont.
Ok.
Et ouais, c'est important, ça, que voilà, on allait tous là-bas pour ma course, mais eux, c'était quand même un gros voyage aussi, donc l'idée, c'était que ça se passe bien pour tout le monde. Et après, d'un point de vue préparation, ben c'est qu'il y a un an en arrière, je revenais d'une enfin je sortais de la blessure que j'avais à l'UTMB. Donc tout l'hiver, j'ai fait ma préparation classique sur les skis, où j'ai vu la forme qui a augmenté au fil de l'hiver. J'ai retardé un peu la période où j'ai remis les baskets parce que l'objectif était en juillet, donc ça laissait quand même largement le temps. Mmh. Et puis j'ai fait des courses en augmentant les distances à partir d'avril. J'ai fait un 37 bornes, après je fais niveau le revoir 55, après maxi race 88, et pour arriver le plus près possible donc à l'Hard Rock, premier objectif de l'année.
Ok. Bah écoute, merci pour cet enchaînement de courses. Mmh. C'est vrai qu'on parle pas souvent de la famille et des gens qui viennent avec toi aussi. Je trouve que c'est bien de l'avoir mentionné, que tu pars pas tout seul. Et qui est-ce qui était avec toi du coup sur tes assistances?
Bah du coup c'était eux cinq là qui étaient sur mes ravitaux, et ensuite il y a un photographe qui nous a rejoint, Simon Duguet. Lui il était plus là-bas, okay, pour faire des photos, des vidéos. Il a même un film qui va être fait. Donc on en avait deux voitures, c'était sympa. Si lui il avait un 4x4 en plus, donc c'était assez cool. C'est 4x4 de Jim Momsey d'ailleurs.
Ok.
il est proche avec Jim, et du coup c'était sympa ça. Ils ont pu aller à certains endroits grâce à ce 4x4. Même les jours d'avant en reco, c'était cool.
Ok.
Organisé quoi.
Et t'as réussi à reconnaître toute la course, ou t'as fait quoi en pourcentage de?
En pourcentage, j'ai dû faire à peu près la moitié, ouais, une bonne moitié même, je dirais. Parce que certaines parties, il y a une longue montée sur une piste forestière notamment. Celle-ci, on l'avait fait en voiture parce que ça m'intéressait pas trop de la faire en courant. Et j'avais fait surtout toute la partie finale parce que la fin de la course se passe de nuit. Donc je voulais pas me retrouver sans connaître le terrain. Donc je l'avais fait deux jours forcément, mais moi j'avais fait tout le dernier tiers, je pense, et puis un petit peu le début de la course aussi qui était proche de notre location.
Ok. De nuit, est-ce que tu fais du coup une prépa particulière, tu vois, essayer...
Non, pas du tout. L'hiver, du coup, là, je cours une fois ou deux. Des fois, c'est en fin de journée. C'est pas quelque chose. Ça m'a jamais gêné. Aujourd'hui, avec l'ombre frontale qu'on a, franchement, on voit très bien. Non, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai besoin de m'entraîner. Puis certains, je sais, le font, vont courir des fois toute une nuit même. Ça crée de la fatigue en plus, que le lendemain, faut mine de rien, si on a passé une nuit blanche à courir, c'est pas la même.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, je peux plus.
Point de vue préparation, ouais, non, c'est. Non, je n'ai jamais rien fait de particulier par rapport à ça.
Ouais, non, j'admire beaucoup ceux qui le font, quoi. À se faire des nuits. Alors, il y a le froid, il y a la gestion du noir. Paraît que les sensations ne sont pas les mêmes. Je veux bien le croire, mais moi, je mets une semaine à m'en remettre.
ça me suffit de le faire en course, moi.
Ok. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose pour l'altitude?
Ouais, clairement. Là, en fait, j'ai l'habitude, moi, d'aller à 2000-2500 mètres au maximum environ l'hiver. Entre 2000-2005, j'y suis assez régulièrement. Par contre, au-delà de 3000, j'y vais quasiment jamais. J'étais allé déjà plusieurs fois en ski de rando, j'avais jamais eu de soucis. Mais là, pour le coup, c'était vraiment une altitude qu'on allait être en moyenne à 3003. On allait passer à 4002. J'étais monté une seule fois, je crois, plus de 4000. J'ai jamais eu de soucis dans le passé, donc déjà, c'était déjà un bon point. Préparation pour l'altitude, c'est passé en... Il y a eu trois choses, en fait. Le premier... c'est que j'avais fait une course au mois de juin en Italie, Monte Rosa Ski Marathon. En fait, c'est une course, tu pars de 1000 mètres d'altitude et tu montes à 4005 en aller-retour à deux. Donc tu fais 3005. C'était une course à deux avec un Italien de mon sponsor Scarpa. Et du coup, ben voilà, en intensité quasiment à fond. Enfin, 4h30 de course, on a mis, je crois. Et ce jour-là, j'ai pas eu du tout mal à la tête, j'ai rien eu du tout. Donc je me suis dit, c'est déjà un bon point, quoi.
Ça, c'était un test.
Ouais, c'était déjà un bon test, parce que à 4005, c'est quand même pas rien.
Ouais.
Surtout en intensité, on était assez fort là. Le deuxième truc, c'était que j'ai fait une préparation en tente hypoxique. En fait, j'ai une entreprise française qui m'a prêté une tente hypoxique. Donc, en gros, tu mets autour de ton matelas du lit et tu dors dedans. Donc là, j'ai fait quasiment 3 semaines. Ouais, alors je faisais le protocole minimum, c'est-à-dire que je faisais entre 8 et on va dire 11 heures par jour maximum, alors que c'est plutôt normalement en minimum 12 heures. Mais je voulais pas prendre trop de risques parce que je sais que c'est générateur de fatigue. Donc faire ça, c'était une période où je m'entraînais beaucoup. En plus, j'ai fait ça au mois de juin, ouais. Donc 3 semaines où je passais les nuits. Concrètement, j'allais dormir dans cette tente et je me mettais. Au début, j'ai commencé à 3002, je crois, et à la fin, je terminais à 4000.
Ok. Tu t'emmènes ta compagne avec toi dans la tente ?
On a essayé un peu au début et elle a pas tenu. Elle a pas tenu très longtemps.
Parce que il me semble que les premiers jours sont un peu bizarres, enfin pour certains.
Ouais, alors moi ça m'a rien fait pour le coup. J'ai pas senti de grosses différences. Et là, le ciel m'a. J'ai l'impression que le cœur il bat plus vite. Oui, c'est normal. Et je sais quoi. Elle voulait pas prendre trop de risques. Je peux comprendre. Donc, on a fait un peu liépard à une petite période du mois de juin, mais je pense que ça m'a aidé. Parce que ça a permis à mon corps de m'habituer tout doucement à l'altitude. Et puis suite à cette préparation de 3 semaines, j'ai fait une semaine normale et ensuite avant une partie aux États-Unis et donc 2 semaines sur place là-bas. Donc ça c'était la dernière phase d'acclimatation entre guillemets. Donc okay. Là-bas on logeait à 2800. Dès que j'allais courir, je montais à 3000-4000. Donc c'est pas mal juste avant la course, une dernière acclimatation.
Donc première phase, un test. Deuxième phase, cette tente hypoxique
ouais.
Que tu fais pendant 3 semaines. Tu fais pas le protocole à fond, mais tu le fais quand même sérieusement.
Oui, ouais. Clairement. Oui.
Et ensuite, sur place, tous les jours, monter à plus de 3000, grosso modo,
ouais.
Pour être acclimaté. Quoi.
Ouais.
Ok. Donc c'est quand même. T'as fait un travail hyper précis. Tu t'es fait accompagner dessus ou c'était un peu au comment tu l'as improvisé ça parce que ça demande des connaissances quoi.
Ouais ben pour le j'avais regardé un peu ce qui se faisait puis l'entreprise qui m'a prêté la tente hypoxique m'avait guidé un petit peu à quel moment faire ça justement est-ce qu'il fallait mieux le faire au mois de juin, au mois de mai, au dernier moment donc sur ce point de vue là. Après il y avait quand même une phase un peu un peu au pif quoi parce que je savais pas comment j'allais réagir à tout ça. C'est comme je disais, je m'entraînais en plus à côté de la phase où j'étais dans la tente hypoxique, donc je m'entraînais beaucoup, donc ça pouvait générer beaucoup de fatigue, j'aurais pu me cramer après j'ai beaucoup écouté mes sensations et finalement je me sentais bien, j'ai jamais senti de grosse fatigue même sur place donc à partir de là je me suis fait confiance.
Ok, pari réussi quoi.
Ouais okay. Clairement ouais.
Hyper intéressant, merci d'en parler parce que ça fait partie d'un peu des nouvelles technologies, tu vois, qui ont parlé un peu des semelles pour les coureurs sur route, mais je pense que tout le travail qui existe sur les chambres hypoxiques, là, pour beaucoup de sports, ça peut
faire
un gros changement. Je sais que l'équipe d'aviron français pour les Jeux de Tokyo, ils avaient fait énormément de travail en chambres hypoxiques et ça n'a pas manqué quand même. Il y a eu plusieurs grosses médailles sur l'aviron, qui est aussi un sport quand même où faut. Alors, il n'y a pas d'altitude, mais.
Non, mais bon, c'est pour développer tout ce qui est cardio-respiratoire, hein, de toute façon,
ouais.
Et s'adapter au fait d'avoir moins d'oxygène. Le corps, il réagit, il s'habitue, lui, en créant. En plus d'hémoglobine donc forcément, mais c'est vrai que c'est une technologie qui est bien développée dans le triathlon, nous on a un sport nouveau, après ça demande quand même déjà l'accessibilité à ça parce que c'est un certain coût quand même si on doit louer ou acheter ça, c'est encore autre chose, mais puis d'un point de vue quand on est en couple, si vous avez des enfants, quand une fois que vous êtes dedans vous n'allez pas sortir toutes les 10 minutes pour aller aux toilettes parce que c'est vite chiant quand même.
Ouais.
Et ça va pour 3 semaines, mais je ferais pas ça toute l'année, très honnêtement. Là, c'est parce qu'il y avait cette course en haute altitude.
Ok. Tu sais s'il y a d'autres ultra-trailers qui ont utilisé ces technos cette année ou récemment?
Alors je sais que certains le font. Alors il y a aussi, on peut le faire. Il y a le côté de dormir dans une tente. Après, on peut mettre un masque, faire du home trainer, par exemple. Je vois certains. Je crois que Tom Evans.
Tu l'as fait un peu, non?
Oui. En fait, j'avais le masque. Je l'ai fait 2 fois. C'était plus pour essayer entre guillemets.
Ok.
Home trainer, c'était un jour je n'avais rien à faire et du coup je me suis dit, on va essayer. Et là, je me mettais même plus haut. Je crois que j'étais à 5000 en altitude juste pour voir. J'ai pédalé, je crois, 45 minutes 2 fois.
En forçant ou non? Tu fais tout doux?
Non, vraiment cool. Ouais.
Okay.
Vraiment cool.
Et alors, ça fait tourner la tête?
Pas tourner la tête, mais en fait, on sent qu'on respire plus et quand on l'enlève, on dit ah oui, là, il y a quand même plus d'oxygène en dehors à 600 mètres d'altitude. Donc j'avais même un peu pour essayer, mais pareil, j'avais pas voulu faire ça trop parce que je m'entraînais, je dormais déjà dans la tente. Mais je crois qu'un coureur comme Tom Evans, il avait fait un petit peu avant la Western State. Après, beaucoup de coureurs qui vont chercher l'altitude, qui vont essayer de faire des stages en altitude. Je sais pas qui précisément fait ou pas. Kylian, je crois qu'il, enfin, c'est sûr, il en a déjà beaucoup fait de l'attente hypoxique, surtout depuis qu'il est en Norvège, quand il prépare l'Himalaya, et puis ben, l'an dernier, enfin il y a 2 ans quand il a fait l'Hard Rock, je crois que c'est pointé aux États-Unis, c'était 3 ou 4 jours avant la course. Il vient de Norvège, il a une tente chez lui. Enfin, il l'a pas annoncé, mais je sais qu'il en faisait pour se préparer. Ben.
Ouais.
Si c'est Jonathan Albon qui en fait beaucoup chez lui, je crois. Il a publié sur ça.
Ok, ouais. C'est vrai que moi, ça fait partie des nouvelles technologies. Je pense qu'ils vont émerger de plus en plus et qui vont attirer de plus en plus. Ouais. En tout cas, merci de nous partager ces bonnes pratiques. Si jamais il y a des auditeurs qui veulent essayer, allez-y. Ça, apparemment, on a une preuve vivante que ça marche bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as préparées un peu spécialement pour cette course? Merci de rentrer autant dans les détails, parce que c'est une mine d'or. Là, tu nous fais une masterclass de comment gagner la Hard Rock.
Ce que j'aime bien faire sur des courses comme celle-ci, c'est analyser toutes les portions avec les. Alors, j'étais pas sur place, mis à part les 2 semaines dans la course, donc j'avais regardé tous les segments Strava, les portions de François sur son compte Strava ou des autres coureurs avant, qui me permettaient déjà de me projeter par rapport au profil. Puis c'est un peu grâce à ça que j'ai déterminé comment reconnaître mes portions de course. En arrivant sur place, parce que c'est vrai que, comme je disais, il n'y a qu'une route là-bas, c'est une grande route, et après, ben, c'est des petites pistes forestières, donc pour reconnaître, mes parents me posent à tel endroit, me récupèrent un autre, j'étais à 10 jours de la course, donc en même temps, il ne fallait pas trop en faire, j'estime à peu près le temps que j'allais mettre, donc c'est un peu le côté un peu préparation précise que j'ai faite avant d'aller là-bas sur place, mais sinon, je pense que c'est déjà pas mal avec le reste.
Et tu fais de l'analyse de cartes avant?
Non, pas de carte. Alors, je regarde le profil, bien sûr, si je peux vraiment pas courir sur place la course, mais là pour le coup j'avais quand même couru, je voyais quasiment toute la course comment ça allait se présenter. Il y a qu'une grosse partie, le premier tiers que je voyais pas trop, et du coup j'avais bien analysé le profil pour savoir où j'allais monter descendre, mais après je voyais quand même où j'allais mettre les pieds.
Ok. Et si on se ramène justement à cette petite semaine ou même 24 heures avant le départ, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te faire douter à ce moment-là, avec le recul, tiens, où tu te dis sur ça j'étais pas hyper serein ou...
En fait, j'ai eu une petite douleur toute l'année, enfin, depuis le début, suite à l'hiver dernier, j'avais une périostite. Sur le tibia, le long du tibia, et j'ai fait avec un peu toute la saison, même la période où je m'entraînais, et ça, même là-bas, ça m'embêtait quand même, j'avais peur que ça dégénère plus, c'est le seul truc, mais bon, voilà, arrivé à 2-3 jours de la course, je savais que ça allait être bon, parce que j'avais fait toute ma prépa, je me reposais, c'était vraiment plutôt les, quand je suis arrivé sur place, je me suis dit, bon, est-ce que je pourrais faire toutes mes recos sans empirer cette petite douleur, pas qu'elle dégénère, et puis finalement, c'est bien passé.
Et dans les facteurs externes, est-ce que toi, il y a des facteurs externes que tu n'aimes pas du tout? Je sais pas, une pluie, du froid, une grosse chaleur.
Ça serait plutôt une grosse chaleur. Après, là-bas, j'étais tranquille pour ça parce que c'est en altitude. Ils annonçaient beau temps, c'est quand même plus sympa pour une course comme ça. C'est très sauvage. C'est quand même plus sympa de se retrouver à 4000 sous le beau temps. C'est une période où, en fait, juste après la course, c'est le début de la saison des pluies là-bas. Donc, en général, il fait quand même assez beau cette course. Et ça s'est confirmé cette année-là, encore une fois. Je crois que j'ai pas mis la veste de la course. Bon, c'était un peu limite sur les sommets dans la nuit. Je crois que faire 0 degré, ça commençait à geler. Ça va que j'aime bien le froid, mais la journée faisait chaud. Il faisait 25 degrés sur les pistes forestières. Donc, ça fait bien chaud en pleine journée, mais bon, ça reste quand même agréable, supportable.
Ouais. C'est pas les plus gros gradients de température que t'as dû faire. Les gradients de température, ils sont plus importants à l'UTMB. Je pense, il fait 30, quasiment 30 dans la vallée.
Ça dépend les années, en fait, UTMB. Ouais. C'est vrai que ça peut faire très très chaud. L'année où je l'ai faite, il faisait chaud en fin de course, mais un peu comme la Hard Rock. J'ai jamais eu des énormes changements de température. Si le plus, peut-être à la Réunion cette année, parce qu'on a eu très très chaud, mais en même temps, la nuit n'était pas si fraîche que ça. Donc.
Ouais, bah c'est ça, ouais, c'est ça, je me dis. Ok. Ça, je sais pas du tout comment le gérer, tu vois, les différences de température, comment. C'est comme si t'as plusieurs couches et à chaque ravitaillement, tu pars par rapport à ça avec la consigne de jamais avoir froid et de jamais trop transpirer.
En fait, moi, j'aime bien courir quand il fait froid.
Ouais.
J'aime pas quand il fait chaud. Et du coup, vu que j'aime bien quand il fait froid, je suis rarement habillé. Enfin, je suis rarement beaucoup habillé à la réunion.
C'est vrai qu'on te voit toujours en t-shirt.
La réunion, je peux être bêtise. Ouais, ben non, j'ai couru tout le long en t-shirt toute la nuit. J'étais en t-shirt tout le long. Alors que ceux de derrière, c'est vrai qu'ils avaient les manches longues. Alors, j'avais au cas où ma petite veste, mais j'étais en t-shirt. La Hard Rock, pareil, j'étais en t-shirt. Alors que Ludo Pomeray qui me payait, il avait la veste, le buff autour du cou. Et il me disait, mais t'as pas eu froid? Je dis, bah non. Bon, après, le lendemain, j'ai quand même bien mal à la gorge avec le froid. Mais pendant la course, j'aime bien être assez découvert. Bon, faut pas avoir froid bien sûr, mais du coup je me retrouve souvent en t-shirt du début à la fin.
Ok.
C'est rare de me voir habillé, quoi.
Ouais, mais c'est ce que j'allais dire sur les images. Mmh. On a l'impression qu'il fait chaud, mais c'est du son de viking, ça. C'est ce que j'aime bien dire. Donc tu l'as dit, tu m'as fait une transition toute trouvée là. Effectivement, il y a Ludo Pommeret qui te payait. Donc c'est une particularité effectivement de cette course, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous rejoint. Je crois que c'est à partir de la moitié de la course, 80 km environ.
Alors en fait, on pouvait à partir du kilomètre 70 même.
70.
Ouais.
Okay.
Et moi, il m'a payé plus loin en fait, vu que j'avais qu'un payseur et je lui avais demandé d'aller jusqu'au bout. Les Kula Western Stage de 3 semaines avant, je lui ai dit bon, commence au 90e, ça me suffira. J'avais pas forcément besoin avant, c'était en pleine journée.
Ok.
Mais sinon, on peut changer à chaque ravitaillement, donc potentiellement on peut en avoir 4, quoi.
Ok. Pourquoi Ludo?
Ben déjà, il fallait que je trouve quelqu'un. C'était pas chose facile parce que ben, on est aux États-Unis, au Colorado. Hein. Je peux pas demander aux copains du coin de venir comme ça. Et en fait, Ludo, ben allait à la Western State et en rigolant au stage compress sport au mois de mars, ouais. Je lui dis, oh, tu veux pas rester une semaine de plus aux États-Unis? Comme ça, tu viens me payer. Et puis il me dit, ah, ça va être trop compliqué niveau boulot. Et puis en fait, c'est lui qui est revenu, je crois, 2-3 semaines après, en me disant. Ouais, t'as trouvé personne en fait. Ça me dit bien. Peut-être que je pourrais m'organiser avec ma femme, puis avec ma fille, avec sa fille et sa femme là-bas aux États-Unis. Et puis c'est de lui-même, il m'a proposé de venir me payer. Donc là, c'était vraiment super cool de sa part.
Ouais, c'est une patte, Ludo, de ce qu'il se dit.
Ah ouais. Oui, bah clairement, c'est le bon mot pour le décrire. Il est super simple. Je pense que c'est super accessible pour tout le monde. Il est très posé. Ouais, moi j'adore.
Ok. Est-ce que c'est en plus ça doit être j'imagine hyper rassurant pour toi d'avoir un coureur aussi expérimenté Ludo, alors je sais pas combien d'ultra il a terminé, mais
moi non plus.
mais on peut le dire qu'il en a fait plus que toi.
oui, j'ai fait que 3, donc enfin des 100 mètres j'ai fait que 3, donc.
Donc qu'est-ce que ça apporte ouais d'avoir son expérience, d'avoir.
Bah là, ce qui m'a vraiment apporté, je pense, c'est de la compagnie. C'est dur à dire, mais c'est une course qui est très très sauvage, comme je disais. Mis à part les ravitaillements où il y a les bénévoles, où on revoit nos proches. Sur certains ravitaux, ils y sont pas. En plus, sinon vous courez, vous voyez personne, vous êtes en plein milieu sauvage et il y a vraiment personne quoi. Et puis la fin de course,
c'est pas l'UTMB.
Non, c'est pas l'UTMB. La fin de course est de nuit en plus, donc forcément il y a personne sur les chemins. Et du coup, bah le fait d'avoir quelqu'un qui discutait, je me rappelle encore dans certaines descentes où j'étais bien, j'étais très lucide et du coup on discutait un peu de tout et de rien, même de, je crois, on parlait de sa fille, ses études, des trucs comme ça. Et ça amène de la présence en fait. Donc c'est pas pour le côté, moi ça me gêne pas de courir tout seul, je m'entraîne toujours tout seul. Ce côté-là, ça me gêne pas. J'avais pas peur d'être en montagne tout seul de nuit. Donc c'était vraiment pour le côté avoir quelqu'un avec soi qui m'accompagne. Et puis mine de rien, le petit truc de plus là quand même qui m'aidait, c'est qu'il me donnait les écarts en fait. Il avait son portable, il regardait le live quand je chopais la 4G et il me donnait les écarts par rapport à derrière, donc ça c'était assez cool aussi.
Ouais, parce que t'as fait toute la course en tête du début à la fin. Ouais. Est-ce que alors tu l'as déjà vécu, il me semble, sur des maxi races. Moi, tu as l'habitude de tenir un peu cette tête de course. Là, il y a une pression particulière, tu vois, vu que tu connais pas la course, que c'est des conditions quand même très particulières, comme on l'a vu. Ça te fait pas douter d'être devant? Parce que des fois, c'est rassurant quand même d'être deuxième.
Ouais, bien sûr.
Quelqu'un devant, je suis et j'essaye de pas décrocher, quoi.
Ouais, après, en fait, là, ça s'est fait très naturellement. J'ai pas voulu spécialement partir tout seul devant et ça s'est fait naturellement. Et je me suis dit, fais ta course plutôt que d'attendre et de te freiner, quoi. J'avais pas envie de me freiner, un peu comme à La Réunion d'ailleurs. Et je me suis retrouvé naturellement devant. Après, oui, c'est sûr que. L'Ardoc, c'était mon deuxième 100 miles. L'année en 2022, j'avais fait 0 100 miles, vu que j'avais été blessé. Donc, depuis un an et demi, j'avais pas fait de 100 miles. Donc, je me suis dit comment je vais réagir quand même au bout de 15 heures de course, quoi. Que je vais pas exploser, entre guillemets, est-ce que je vais pas coincer. Alors que derrière, c'était Benoît Marunisol qui sortait d'une grosse année, qui a gagné la Réunion. Il avait de l'expérience, lui. Donc non, bah, j'essaie de pas trop y penser. Je fais ma course et puis ça se passe plutôt bien, quoi.
Ouais. À quel moment tu te dis c'est bon là, ça va le faire. Comme tu le dis, vous êtes 5 ou 6, tu vois, dans le paquet. Moi, je vais aller checker les caméras, mais tu me réponds à quel moment tu te dis là, ça sent bon, ça doit aller au bout, quoi.
Ouais. Je me le suis vraiment dit au kilomètre, je crois que c'est environ 110-115. C'est un point mythique de la course, ça s'appelle Crosscore Cantine. C'est un ravitaillement, t'es à 3950 d'altitude, t'as le coucher de soleil, et en fait toute la montée j'étais dans le dur, et au sommet, ben, c'est là où les bénévoles m'ont dit l'avance que j'avais sur Bennett. J'avais été dans le dur et en même temps j'avais repris du temps cette montée, et à partir de là dans la descente j'ai retrouvé des super sensations, j'ai mangé une bonne soupe au sommet, ça allait super bien, et du coup là je me suis dit ouais, ben, il suffit de continuer sur ce rythme là et normalement ça devrait le faire. Ouais, il peut toujours arriver une chute, hein, un problème comme de ce genre là, mais sinon je savais que d'un point de vue physique ça allait tenir pour aller au bout.
Ouais, donc finalement on peut dire assez tôt, même si c'est au bout de 110-115 km. Y a pas t'as jamais eu cette peur de, tu vois, de ouais, la peur du gagnant un peu, on l'entend souvent, tu vois. Alors c'est plus dans les sports, tu vois, de où il y a du jeu, quoi, où c'est très psychologique avec un adversaire, où il y a plus du coude à coude, tu vois, que plus que
Ça dure tellement longtemps, en fait. J'ai eu le temps de le voir venir pendant la course, quoi. Je me suis retrouvé avec 10 minutes d'avance, 15, 20, 30 minutes, 40 minutes. Donc, tu te prépares tout doucement à ça aussi. Et puis, bon, j'avais pas gagné de grosses courses. Enfin, j'ai gagné à Trans Canaria en 2021. Donc, j'avais déjà gagné certaines courses. Donc, c'était pas nouveau non plus pour moi. Après, sauf que là, c'était nouveau vu que c'est un premier gros 100 miles que j'ai gagné cette année, ouais.
Ok. Ok. Comment il est le podium et l'arrivée comparé justement à la ferveur de Chamonix ou la ferveur de la Réunion, qui sont quand même des publics assez exceptionnels, enfin des lieux pour fêter sa victoire, où j'imagine que l'ambiance doit être, enfin Chamonix je connais, donc je sais que l'ambiance est assez folle. La Réunion, on peut voir sur les images aussi que ça bouge bien. Là tu dis que l'arrivée elle est de nuit, qu'il y a personne aux alentours. Comment ça se passe la remise des médailles et le trophée?
Alors, c'est deux trucs différents. C'est vrai que l'arrivée, je suis arrivé, moi c'était 5h du matin, donc il faisait encore nuit. Il y avait mes parents. Si t'enlèves mes parents et les journalistes, je pense qu'il y avait peut-être 15 personnes à mon arrivée sur place. Personne n'était réveillé.
Il y a moins de monde qu'à Courmayeur en Italie.
Ah, bah oui, non, mais clairement. Et en fait, finalement, il y a plus de monde pour le deuxième, pour le troisième, ainsi de suite, parce que le jour se levait et il faisait jour, donc plus en plus de monde, les familles des autres coureurs. Déjà, on est peu au départ, on n'était que 146. Mais c'est vrai que même dans la petite ville d'à côté, Durango, nous on logeait entre les deux villes, entre Silverton et Durango, et j'étais allé me faire masser 2 jours avant la course, et la masseuse qui m'avait massé, elle connaissait même pas la course. Je lui dis, vous faites quelle course? Je lui explique, elle me dit, ah ouais, d'accord, elle connaissait pas.
Ouais, okay.
C'était fou. Alors, pour Silverton, si tout le monde connaît, mais ouais, c'est vraiment une petite course par rapport à l'UTMB ou à Lionel des Fous. Par contre, la remise des prix, ça, non, c'est autre chose. C'est en extérieur. Et donc avec tout le monde, on pouvait inviter tout ce qu'on voulait. Et en fait, ils font un gros brunch à 10h du matin. Donc tout le monde, on mange, tout le monde brunch
le
dans
lendemain,
un grand
okay.
parc
ouais.
à l'extérieur. Et ensuite, la remise des prix, ils appellent, ça commence à midi, du dernier finisher au premier. Et ils te donnent un diplôme à chacun. Un diplôme, le premier, on a eu une coupe en plus, enfin un trophée. Mais c'est super sympa le principe. Un par un, t'es appelé, tu te lèves, tu vas chercher ton diplôme. Mais même pas de podium, il n'y a pas de podium. Je crois que j'ai pas pris une seule photo avec les trois.
On a pas
Ok.
pris... Ouais, j'ai pas pris de photo avec Bennett Marmisol. Il n'y a pas de système de podium 1, 2, 3, quoi. C'est vraiment
Ok.
un par un.
Ok, c'est marrant, je connaissais pas cette histoire de diplôme, ça fait un peu université
Ouais,
américaine,
clairement, ouais.
c'est
Avec
original en tout cas.
notre temps dessus, avec nos prénoms dessus, ouais.
Ok. C'est quoi, c'est le Norseman, le triathlon qui fait un peu pareil, c'est avec le t-shirt noir et le t-shirt blanc en fonction de où est-ce que tu en es sur la course à pied, on te file le t-shirt. Ça te donne envie d'ailleurs le triathlon un peu, peut-être un jour?
Non, ben, le problème c'est l'eau quoi. Le problème c'est l'eau parce
À
que
chaque fois, c'est toujours le même souci. Hein,
là, mais
c'est...
il y a deux triathlons sympas. Il y en a un qui est à côté de... enfin, qui est, là où j'habite à Saint-Joriot, et c'est un triathlon très alpin en fait. Parce que le vélo, t'as 180 bornes et je crois que t'as 4000 et quelques de dénivelé en vélo. Et à pied, pareil. Donc t'as des boucles à plat. Et ensuite, si t'es dans les temps, tu finis par la montée finale et tu finis au Semnoz, là au sommet d'Annecy. Donc ça me va très bien. C'est à côté de chez moi. Mais mes 3 km 6 de natation dans le lac, non, je crois que. Faut déjà que je sorte vivant de ça. Et ensuite, il y a la 03 000 à l'île de la Réunion, bah, qui a eu lieu le
Ouais.
week-end dernier. Ça, pareil, ça me, enfin, j'ai déjà fait la montée en vélo à Cilaos, et ensuite la montée au volcan, au piton,
Ok.
d'Ariège. Mais il y a la natation avant, quoi. C'est ça le problème toujours.
Bah écoute, si t'as envie de t'y mets pas trop tard parce que ça met du
Ouais.
temps quand même
Ah ouais,
à
non, je pense
apprendre,
que.
mais bon, je suis sûr que tu te gardes ça pour plus tard.
Ouais, bien plus tard. Après Western State.
Je veux bien te croire. Puis en plus, quand on voit Laurent Jalabert, on se dit bon, il y a toute une vie presque
Ouais.
pour se lancer des défis de dingue sur la distance Ironman, où c'est finalement 2 à 3 fois plus court que ce que vous faites hein, en termes
Ouais,
de
c'est ça. Ouais,
d'efforts. Après,
mais
c'est une intensité
oui,
plus élevée. Hein.
c'est différent. Ouais, ils mettent moins de 8 heures maintenant, donc ouais.
Ok.
C'est plus court, mais ouais, je suis ça. J'aime bien regarder aussi pour le côté performance. Après, c'est sûr que bah, le côté course au goudron, ça m'attire, comme je disais, pas du tout. Puis souvent, les parcours vélo sont quand même plutôt roulants, donc c'est encore différent de ce que je fais
Ok.
moi-même à l'entraînement sur un vélo, quoi.
Ok. Petite dernière question sur l'altitude et sur la course que j'avais oublié de te poser. Est-ce que durant la course, à cause de l'altitude, tu dois surveiller, je sais pas, ta fréquence respiratoire, tes battements de cœur, parce que tu l'as dit, ta compagne, elle avait le cœur qui s'accélérait. Là, tu fais un effort. J'avais entendu des alpinistes qui montaient très longtemps et qui surveillaient un peu leur pulsation cardiaque. Est-ce que je dis des bêtises? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu surveillais d'une façon ou d'une autre?
En fait, à l'entraînement, j'avais la ceinture cardio quand j'étais là-bas. J'avais surveillé en fait pendant mon acclimatation en tente le taux d'oxygène dans le sang avec un saturomètre.
Ok.
Mais une fois sur place là-bas, j'ai rien fait de particulier.
Ok.
Et le jour de la course non plus. Déjà, je cours sans le cardio et le jour de la course, je m'écoute vraiment en sensation. Et en fait, finalement, le jour de la course, c'est le seul jour, le premier jour, c'est bien tombé, hein, où j'ai vraiment rien ressenti. Je sais pas, il y a le côté adrénaline, mais même les 2, 3 jours avant, quand je courais les derniers petits footings, dès que j'ai quoi, je me disais, ah ouais, là, quand même, l'altitude, on va la sentir. Et le jour de la course, je veux pas dire, j'ai rien senti, mais j'y ai pas pensé, ça m'a pas, je me suis pas dit, ah, tu manques d'oxygène, j'ai pas eu ce souci-là, ouais.
Ok. Comme
Donc non,
quoi.
je me fiais vraiment à mes sensations.
Ok, comme quoi ouais, la prépa était super bien réussie. Est-ce que c'est la course la plus difficile pour la récupération, justement? Entre le voyage, tu sais, l'organisation, l'arrivée un peu de nuit, donc t'es aussi décalé, t'es quand même pas mal décalé. Est-ce que c'est pas plus dur finalement pour récupérer d'une course comme ça?
Ouais, c'est sûr, c'est oui, clairement, ça sera plus dur là après. Comme mon autre objectif c'était la Réunion qui était 3 mois après, je m'étais vraiment donné 2 semaines où j'allais rien faire derrière, et en fait je suis rentré 3 jours après, je suis arrivé là avec décalage, je suis reparti en Bretagne pour un mariage, enfin c'était, j'avais le total pour pas bien récupérer, décalage horaire, fatigue, bah ouais, en effet, on arrive à 5 heures du matin, donc je faisais des siestes beaucoup, je dormais pas mal dans la journée, pendant une semaine, 10 jours, même peut-être 2 semaines, mais vu que j'avais pas d'objectif, enfin j'avais pas sur l'UTMB par exemple, donc je m'en fichais, et puis j'ai vraiment pris le temps, même les premières semaines j'ai refait du sport, je suis allé progressivement, je me suis écouté, et ça s'est bien passé, mais parce que j'avais pas ce stress aussi d'avoir une compète qui arrive à court terme derrière,
Ok.
donc c'est quand même plus facile je pense.
Ouais, ça marche. Ouais. Et Est-ce que tu tombes malade ou t'as des, tous les side effects là, de la redescente un peu de altitude plus effort. Moi, je sais que la première fois que vraiment j'ai fait, enfin sur ma plus longue distance pendant plusieurs jours, tu sais, j'ai eu un peu le choc traumatique où je pense que
clairement le corps est affaibli. Depuis cette année, je prends des compléments alimentaires, toi, vitamine C, vitamine D, des trucs comme ça, un peu magnésium.
Surtout après.
Tout le temps, en fait. Je prends ça d'un point de vue régulier.
Ouais.
Je me suis fait suivre pour ça et voilà, donc je suis passé à jouer, en tout cas, mais j'ai pas chopé d'infection respiratoire, de problèmes, j'ai pas eu de gros problèmes physiques, surtout. C'est surtout ça qui m'a bien aidé, je pense. J'ai pas eu de grosses douleurs musculaires suite à la course, donc c'est quand même, ça aide quand même pour la récup, déjà.
Ok. Du coup, là, t'as 3 mois pour te préparer. Comment est-ce que ça s'organise un peu tout ça à ce moment-là?
C'était le planning idéal, donc je trouvais sur le papier parce que ça laissait vachement le temps.
C'est vraiment pour toi, c'est 3 mois un pic de forme pour en retrouver un, pour redescendre et remonter?
Je savais pas finalement, parce que c'était seulement mon second sans maïs, la hard rock, et la diagonale, mon troisième. Donc c'est ce que j'espérais en fait. Je m'étais dit, c'est l'idéal pour, pour une année comme ça. T'as que entre guillemets 2 gros pics de forme à avoir, et entre temps, tu peux te reposer. Je vais pouvoir remettre un peu de l'entraînement à partir de mi-août, et puis ensuite, je fais une course de préparation Wish Rubble by UTMB pour qualifier pour l'UTMB l'année prochaine aussi, au mi-septembre. Et puis là, c'était mon dernier, c'est à partir de là que j'ai fait mon gros bloc d'entraînement pour la Réunion.
Ouais.
Et puis de nouveau, voyage, acclimatation sur place, petit troco.
Mais là, tu connais par cœur.
Et là, je connaissais quasiment tout déjà, parce que j'étais plusieurs fois à La Réunion, et je connaissais pas juste le début et le changement de la sortie de ma FAT. Donc, c'est les 2 seuls recos que j'ai fait en arrivant sur place, là-bas.
Quand tu y allais, c'était pendant la diag, du coup, ou c'était...
En fait, j'y suis allé 3 fois pour la diagonale, 3 fois je voulais participer à la course, et 3 fois j'étais blessé en arrivant sur place. 2018, 2019, 2022. Donc c'est des années où j'ai pu profiter de l'île, marcher sur place, donc ce qui m'avait permis de reconnaître quasiment la totalité de la course.
T'avais pris le départ ?
Non, jamais pris le départ. Mais du coup, j'avais comme cet avantage d'arriver sur une île que je connaissais par cœur. J'étais à l'aise avec tout. Enfin, on a nos habitudes, même avec les magasins où on est logé, les routes. Donc d'un point de vue préparation, c'était quand même beaucoup plus simple que la hard rock, par exemple.
Ouais. Et t'as pas peur d'une malédiction après les 3 fois précédentes là? Tu l'as bien balayé, mais
non, bien sûr, on y pense, hein, forcément. On se dit j'espère que ça va tenir jusqu'au jour J, mais c'est vrai que plus la course approchait, plus j'avais des sensations agréables, et ça s'est confirmé le jour J.
Ok. Je t'ai pas trop entendu la raconter cette course. Est-ce que c'est j'ai cru comprendre que tu t'es senti super bien tout du long. Que peut-être même c'était la course où tu t'es senti le mieux de ta carrière. Cette sensation de bien-être, elle commence quand? Elle commence la semaine où t'arrives, elle commence la veille au soir, elle commence au bout de 5-10 kilomètres, tu vois. À quel moment tu sens que t'es dans un bon jour?
T'as un peu tout dit. C'est en arrivant à La Réunion, j'ai fait mes 2 dernières grosses recos sur place. J'ai fait des sorties de 4 heures, je crois. Et la première, c'est bien passé. J'avais des sensations bonnes. Et en fait, en regardant vite fait le temps que je mettais sur les segments Strava, je me suis dit, putain, là, je suis assez vite, en fait. C'était un peu particulier, les sensations, parce que je m'étais vraiment bien reposé avant. Donc là, ça remettait en marche les sensations, et la sortie d'après, donc là je suis dans ma FAT, j'ai reconnu toute la sortie de ma FAT, et ce jour-là vraiment j'avais des super sensations, et j'étais à une semaine de la course, je crois, c'est ça. Donc à une semaine de la course, je savais que le jour J ça allait faire, il me suffisait de bien gérer les derniers jours de préparation, et plus la course approchait, et plus je me sentais vraiment vraiment frais, vraiment bien dans ma tête, physiquement. Et le jour J, c'est la première fois que ça m'a fait ça, je crois. D'habitude on a toujours un petit stress, un peu d'excitation, et ce jour-là je me suis dit, bon, il y a un moment peut-être que je vais stresser, même pas le dernier repas, je me sentais super super bien, c'était vachement agréable.
Okay.
Et j'étais très confiant à l'approche de la course, vis-à-vis de mes, de par mes sensations, et puis j'ai essayé de m'imaginer le meilleur des scénarios tout au long de la course. Et après, voilà, on a pris le départ, et dès que la pente C'est accentué au fil du 7e kilomètre, je crois, à peu près. Là, tout de suite, j'avais des super sensations et je savais que j'étais dans un bon jour.
Ok. Tu fais encore quasiment toute la course en tête, il me semble, de mémoire. C'est qui derrière, déjà?
En fait, derrière, il y avait un gros groupe. Il y avait Germain Grangier, François ouais. Daen, Jean-Philippe Choumi et le Corse Lambert Santelli. Donc, ils annonçaient 5 favoris. C'est vrai que j'étais tout seul devant. Et derrière, les 4 gros coureurs. Donc, faut pas trop y penser. Bon, pendant la course, je savais pas exactement qui était derrière, si c'était tous ensemble ou pas. Je l'ai su que, je crois, au matin même, à Sillaos, là. Mais j'ai fait ma course, ouais. Et je me suis retrouvé rapidement aussi devant tout seul.
Ok. Et là, cette fois-ci, t'auras pas de pacer, mais tu connais bien. Comment est-ce que tu gères, du coup? C'est quoi peut-être les points d'attention sur lesquels tu cibles ton esprit pour tu vas pas dégoupiller, pas passer à côté de ta
perte? C'est bête ce que je veux dire, mais c'est vraiment, je m'écoute vraiment au niveau des sensations. C'est-à-dire, si je me sens très bien, je vais courir, je vais pousser, enfin, je vais vraiment, par exemple, la descente sur Sillaos, c'est au kilomètre 70, on arrive en bas, et la descente, je suis descendu relativement vite, je le sentais, je me disais, là, tu descends assez vite, mais je me sentais tellement bien que c'était agréable, et je me suis écouté, j'y suis allé, et je crois que j'aurais pris 6 minutes sur 40 minutes de descente, je trouve que c'est assez énorme, en pourcentage. Et ouais, c'est surtout ça. Je m'écoute beaucoup. Après, bien sûr, penser à s'alimenter, c'est des conseils basiques, mais c'est les points sur lesquels je me fixe le plus. Puis de faire les choses bien carrées au ravitaillement, pas perdre trop de temps, bien partir avec tout ce qu'il faut entre deux points. Parce que là, par exemple, si là-haut, je voyais pas mes parents jusqu'à la sortie de ma FAT, donc c'était 7-8 heures plus tard. Donc voilà, fallait bien qu'ils me donnent ce que j'ai besoin, même si j'avais d'autres ravitaillements par d'autres personnes. Mais ouais, c'est surtout ça sur quoi je me focalise.
C'est pas trop dur d'avoir les Vito avec ses parents?
Non, en fait, moi, c'est ce que je dis. Tout le monde me dit, ah, t'as besoin de tes parents? Je dis non, c'est juste qu'en fait, ils viennent sur ton mode de course, je suis content, je les vois, mais ça serait. Quand mon frère, c'est mon frère qui fait, quand c'est ma compagne, c'est ma compagne. Ça serait quelqu'un d'autre, franchement, ça me gênerait pas. J'ai pas besoin d'une personne particulière, du moment qu'ils font le truc que j'ai besoin, et voilà. Et puis, je suis pas millimétré non plus sur les ravitaillements, ces distances-là, même si je perds 20 secondes, je pense que c'est pas crucial non plus.
Tu manges quoi, toi, d'ailleurs, sur les ravitaux? C'est quoi tes petites routines?
Moi, j'ai l'habitude avec mes produits énergétiques, mon sponsor. Et puis après, là, j'avais essayé ça sur la préparation ici en Savoie. J'ai pris des maquis avocats. Mais en fait, finalement, le jour de la course, j'ai même enlevé l'avocat. J'ai mangé que un petit peu de riz. Un peu de riz. Et puis souvent, un côté salé aussi, que j'aime bien avoir un retour salé avec du bouillon. Du bouillon de poule, par exemple, un truc comme ça, qui va vraiment couper le côté sucré.
Ouais.
Mais sinon, on va tourner après avec des gels, des compotes, et puis de la boisson. Là, il fait très chaud à la Réunion, donc j'ai quasiment rien mangé de solide.
Ah ouais?
Ouais, j'ai mangé quasiment que du liquide ou semi-liquide, qu'on appelle compote, chose comme ça. J'ai mangé une barre de la course, je crois. Et après, j'ai mangé 4 équivalents de maquis, de riz, et sinon, quasiment que solide, liquide et semi-liquide.
Ok, d'accord. Ouais. Ça, je pourrais pas, moi. Franchement, même psychologiquement, je sais pas si je tiendrais. Mais hyper curieux. Enfin, je trouve qu'il y a autant de stratégies que de coureurs, quoi. Il y en a pour avoir été là à l'UTMB, avoir vu à Courmayeur et sur les différents ravitaux. Il y a vraiment toutes les stratégies possibles, quoi. Certains vont se faire des tupperwares avec des blancs de poulet.
Puis souvent, ce que je fais, c'est que je prévois, en fait, des fois je prévois ça, mais je vais pas avoir envie. Et du coup, j'ai toujours plusieurs options au cas où, si j'ai envie de manger du riz, j'ai comme du riz. Je crois que j'ai des fois de la purée de patates douces. Bon, là, j'ai même pas préparé. Mais des fois, ça arrive. Je crois que c'est du Tembe en 2021. Ma compagne me ravitaillait à Champais. Elle me dit, tu veux un café? Je dis, mais j'ai pas prévu. J'ai du café. J'ai bu du café. J'ai pas prévu. J'ai bu un café à Champais. Voilà, c'est des fois, ça sort un peu du plan. Et
ça marche.
Ouais.
Ok, mais c'est un truc sur lequel j'ai l'impression, enfin, on entend beaucoup de rigidité.
Ouais,
beaucoup.
Y a pas, je pense qu'il n'y a pas de recette magique pour qui marche à tout le monde, hein, clairement. Ouais, après, c'est bien d'essayer de savoir ce qui fonctionne quand même plus ou moins, enfin, ce qui marche pour soi.
Ouais.
Donc ça se travaille comme à l'entraînement, puis avec l'expérience, mine de rien aussi.
Ouais, clairement. Hyper clair. Et l'arrivée, ça doit être différent.
Ouais, là, c'était clairement différent. Ben, déjà, même avant l'arrivée au dernier ravitaillement qui est au sommet de la dernière descente, je suis arrivé sur Ravito et en fait, il y a déjà plein de journalistes là-bas. C'est pas aussi qu'Eric Lutembe où il y a des airs pour les journalistes là-bas. Non, c'est. Ils courent à côté de toi avec le micro et te posent des questions en courant. Et
C'est
derrière Ravito, je
sauvage.
remplissais mes flasques. Ils me posaient déjà les questions, les journalistes en te filmant. Donc, et ouais, non, l'arrivée, c'était vraiment un super chouette moment parce que c'est. La Réunion, c'est ma course de cœur, comme je dis toujours. C'est celle qui m'attire le plus. Elle se refuse à moi depuis 3 ans. Et ouais, t'arrives un peu. Pour eux, là-bas, t'arrives comme un dieu, quoi. La Réunion, quand tu as gagné la course, t'es, le lendemain, t'es en photo sur les journaux locaux. Les gens, ils te demandent des autographes. Enfin, c'est vraiment la folie. Mais c'est super sain, hein, comme atmosphère, je trouve. Les gens sont vraiment intéressants, intéressés par ce que t'as fait. Et ça, c'est cool comme ambiance.
Ouais, il y a une vraie passion
Ouais.
authentique pour cette course
Ah ouais,
et
clairement, toute l'île est tournée autour de la course, en fait, le temps d'une semaine là-bas. C'est toute l'île vit pour la Diagonale des Fous. C'est impressionnant.
ouais. Et du coup, enfin, c'est quoi les peut-être, je sais pas, les petites choses qui t'ont fait marrer ou les petits trucs un peu inattendus quand on est le gagnant donc il y a les autographes et tout, mais
Ouais, bah il y a le lendemain déjà faut aller sur le plateau télé de la chaîne locale là-bas, enfin ce qui est le France Info local, c'est comment, c'est la Réunion Première, donc faut retourner sur le plateau le soir même, le lendemain de la course ou le surlendemain peut-être. Il y a ça et puis en fait l'anecdote c'est en fait tu gagnes une grosse coupe en acier qui est comme ça, et quand j'ai gagné ça je me suis dit mais comment je vais ramener ça, j'avais pas du tout à place, elle rentrait pas dans la valise en fait. Et il a fallu demander 2-3 autorisations à l'aéroport pour qu'on me la ramène chez moi. Et du coup, ils ont accepté en cabine.
Ok.
Et...
Ils ont pas prévu ça, genre
Bah non, après, je me dis que chaque année, c'est à chaque fois des étrangers qui gagnent. Donc le problème doit se poser à chaque fois, plus ou moins, sur les différentes compagnies aériennes. Mais
Ok.
j'ai pu le ramener. Et dans le salon.
Ouais, c'est bon, elle est dans le salon.
Ouais, c'est bon.
Je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Tiens, tu me montreras une photo
Ouais.
après ce que je
Ouais, c'est
suis.
une grosse coupe acier. Ouais, c'est original, c'est.
Ok. Ça habille. Ça change du diplôme.
Ouais, bah oui, c'est ça, c'est original. Et puis, celui qui est vraiment joli, c'est celui de l'Hard Rock. C'est vraiment un truc en bois avec un mouflon taillé dans du.
Oui,
Pas
j'ai
du
vu.
bronze, mais je sais plus quelle matière. Mais il est vraiment joli, celui-ci.
Ouais, c'est un beau.
Mais j'ai mis les deux à côté quand même.
Bien sûr, j'ai vu effectivement que tu avais fait une petite vidéo
Ouais.
pour faire choisir ta fille, c'est ça?
Un garçon, maintenant.
Garçon, pardon, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Et ok, donc ouais, ramener le. Tu ramènes quoi d'autre? Y a rien d'autre? Y a des petits souvenirs ou.
Si, bon, il y avait des souvenirs, oui, bien sûr. J'ai ramené. L'anecdote, c'est que en fait, j'ai un ancien collègue de travail qui est là-bas. Il m'avait dit la veille de la course, il me dit, bah si tu fais podium, j'ai un patient, celui qui est kiné là-bas. Il me dit, il y a un patient qui t'offre une bouteille de rhum arrangé. Je dis bon bah je retiens, et puis bah du coup le lendemain je lui écris et je lui dis bon bah j'attends le rhum, et puis il me l'a offert, donc je suis revenu avec ma bouteille de rhum arrangée aussi. Ah, on a ramené des ananas dans la valise parce que là-bas c'est les ananas tout frais, c'est super bon. Et puis après aussi, mais en plus un gros panier garni avec plein de spécialités locales, ça c'est plutôt cool,
Trop bien.
c'est bon souvenir.
C'est quoi que t'as préféré d'ailleurs? Est-ce que
Sur quoi?
sur le dans le panier garni avec tout
Ah, il y avait des espèces de biscuits avec de la papaye dedans. Il y avait papaye, il y avait je sais plus, tous les fruits locaux. Et c'était vraiment super bon. Je mangeais ça toutes les semaines d'après
Ok.
en revenant en Savoie.
tu ramènes un peu de. T'as bien raison d'en avoir profité. C'était quoi du coup le programme après la course? C'était plus de sport?
Ouais,
Fini?
alors en fait, je m'étais dit, enfin, oui, c'était clairement la fin d'année pour moi. L'année était plus que réussie, donc c'est quand même plus facile de récupérer, je pense, quand on réussit un objectif. Et du coup, j'ai pas fait de sport, je crois 10, 11 jours. Et ensuite, j'avais pas du tout de programme pendant au moins 2, 3 semaines. Enfin, même jusqu'à là aujourd'hui, là, je reprends quand même vraiment une démarche un peu plus performance, mais c'était l'idée de faire du sport si j'avais envie, surtout pas faire longtemps. C'est-à-dire, j'allais courir 1 heure. Si je voulais faire du home trainer, bah, je faisais un petit peu d'home trainer. Je m'écoutais vraiment, puis j'attendais surtout l'hiver qui arrive avec la neige dans les montagnes. Et donc là, c'est arrivé. Donc maintenant, là, je remets les skis de rando et puis je vais me repréparer tout doucement, plus spécifiquement pour les skis de rando.
Ok. J'ai vraiment l'impression que c'est devenu vraiment le comment dire l'arme des grands ultra-trailers d'aller skier l'hiver pour reproduire un effort assez intense, long, tout en étant porté et sans choc, quoi.
Ouais, bah c'est un. Moi, je suis vraiment un fervent partisan du ski de rando en termes de préparation, parce que ça nous permet de travailler la caisse. On fait des heures, on passe des heures. L'année passée, je crois que j'ai dû faire 110 000 mètres dénivelé positif en ski sur 3 mois en ski. Donc, c'est quand même conséquent. Voilà, ça permet de faire un gros volume. On bosse ce qu'on appelle nous l'endurance de force, c'est-à-dire de produire de la force pendant des heures et des heures. Et c'est une capacité. Je pense que c'est le critère principal sur l'ultra endurance. Mmh. Donc je pense que c'est pour ça que tous ceux qui en font performent sur ça. C'est vrai que François, Xavier fait plutôt du ski de fond, lui. Mais Kylian, on voit Jonathan Albon, Pete Angdal qui sont en Norvège avec Kylian. Tout le monde fait ça. Ludo, moi, il fait des heures et des heures lui aussi d'entraînement de ski l'hiver. Et puis, il y a le côté altitude, mine de rien. On va chercher à chaque fois l'altitude. Donc, on adapte aussi notre corps à ça. Et puis, ça nous permet surtout, moi, je le vois aussi pour une période de 3-4 mois où je laisse mes articulations un peu plus tranquilles.
Ouais.
Si on a des petites douleurs, je sais qu'elles vont passer sur cette période-là. Et ça fait une grosse remise à zéro sur cette période, tout en s'entraînant énormément.
Ouais, je vois, ça là, t'es un super compromis. Et en parlant d'articulation, tu prends du collagène ou des compléments pour les requinqués ou
Non, bah en fait, j'ai articulairement parlant, j'ai jamais eu mal, si ce n'est aux genoux, aux chevilles, jamais eu. Aux hanches, oui, parce que j'avais eu, comme je disais, en 2016-2018, j'avais des malformations, entre guillemets. Donc j'ai été opéré, on m'a raboté une partie de l'os, pour faire simple. Mais sinon, je prends jamais. Rien de particulier. Enfin, le complément, c'est vitamine C, vitamine D, magnésium et du fer.
Ok. Je vois qu'on arrive à 1h30, donc il est l'heure de raccrocher. Bon, il y a plein d'autres sujets que je voulais voir. J'avais quand même une petite question un peu marrante que j'aime bien poser aux ultra-trailers. C'est est-ce qu'on va voir les Kenyans gagner l'UTMB un jour? C'était la question attendue.
Ouais, mais ça c'est un gros débat. Et moi, j'ai une réponse assez tranchée. C'est que je pense qu'ils n'y arriveront pas sur l'UTMB, hein, je parle.
Ouais.
Même sur 80 km, je pense que, enfin, 180, 100 km. En dessous, on le voit, ils sont très forts ils peuvent être très forts sur Sierzinal, sur des formats jusqu'à 40 km, mais même 40, on voit que ça commence déjà à pêcher. Sierzinal, c'est 2h30, hein, pour les meilleurs, pour eux. Mais au-delà, pour l'instant, ils sont pas, enfin, physiquement, on voit bien qu'ils sont pas formés pour ça. Sierzinal, c'est une course où faut courir vite, très vite. Il y a pas de bâton, ils ont pas de sac. C'est un tout autre sport que de courir 170 km avec un sac de 2 kilos. Faut gérer l'alimentation, l'hydratation, savoir marcher avec des bâtons. Ça, je pense qu'ils ont jamais fait pour l'instant. Donc, ils peuvent jusqu'à 40 km, je pense. Oui, c'est ça, sur les formats 40 km avec 2500 mètres dénivelé, 3000 peut-être. Après, on parle des Kenyans, pas forcément que les Kenyans d'ailleurs, d'autres pays.
Oui,
qui
bien
sont,
sûr.
Voilà, pays africains, mais ils pourront progresser, oui, clairement. Mais de là à avoir gagné sur l'ultra distance, je pense que c'est pas demain la veille.
Non, et puis finalement, c'est vrai qu'ils s'entraînent quasiment que sur du plat, tu vois, même s'ils ont. Au Kenya, en tout cas, le Kilimanjaro, il pourrait avoir de l'altitude et faire du dénivelé. Je sais pas comment ils s'entraînent, mais les images qu'on voit de là-bas, c'est de la piste.
Après, ouais, ce qu'on voit, les images, c'est surtout ceux qui font de la vitesse, enfin, du marathon, comme ça. Ils ont des terrains, quand même, je crois. Après, je pense, ils viennent d'un pays qui est pauvre. Je pense qu'ils font ça pour faire vivre leur famille, pour vivre. Donc, forcément, ils vont là où il y a de l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même plus d'argent sur des marathons que sur du trail. Donc, mais tout de même, on en voit de plus en plus arriver quand même sur les courses distances de trail, quoi. Sur le format Golden Trail Series jusqu'à marathon.
Ouais. Non, et puis ouais, je pense que parmi tous les grands ultra trailers, tu vois, enfin, c'est faut quand même naître dans la montagne, en faire, être passionné, tu vois, des très jeunes, quoi. Donc, quelque chose qui apparaît tôt, j'ai du mal à croire que.
Moi aussi, clairement.
Quelqu'un
qui a couru 10 ans à faire du marathon, on peut pas se dire, il va passer sur le long et il va réussir. Non, c'est.
Ouais.
Enfin, ceux qui réussissent sur le long aujourd'hui, ou qui ont réussi, c'est des gars qui courent depuis un moment sur des distances longues. Enfin, François, il a toujours fait ça. Xavier Thévenin, il a couru tout de suite sur des longues distances. Jim, ça fait combien d'années qu'il court des longues distances? Enfin, c'est quand même toujours plus ou moins les mêmes profils que l'on a.
Ouais, je vois tout à fait. Bah écoute, trop cool. J'aurais eu ma petite.
Mon avis.
Ton avis sur la question. Et puis, tiens, vous pourrez nous dire, vous qui nous entendez, si ça endiable vos dîners avec vos copains trailers et marathoniens. Écoute, merci beaucoup, Aurélien, d'avoir passé ce moment. Je me suis régalé à pouvoir aborder des sujets sur lesquels je t'entends un peu moins et puis avoir un peu plus en détail aussi cette magnifique saison que tu as fait. Qu'est-ce que tu prévois pour 2024 Est-ce que tu as révélé publiquement ton calendrier
Alors publiquement non, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je le faisais, ça se passait mal. Donc je me suis dit que je le ferais plus. Okay. Je l'ai pas fait l'année passée, je le ferai pas cette année, mais oui, clairement, enfin, j'ai dit que j'allais faire l'UTMB, donc ça c'est sûr. Et puis j'annonce aussi que je vais être papa pour la seconde fois, donc ça va s'articuler autour de ça aussi de début de saison. Donc je vais pas aller à l'Hard Rock notamment où je pouvais retourner grâce à ma victoire, mais voilà, ce sera plutôt un focus UTMB dans un premier temps, puis ce sera le gros objectif l'année prochaine, et donc j'essaierai d'arriver le plus près possible. Il y aura 2-3 courses avant sûrement, mais, okay. mais voilà.
Ok, et eh ben écoute, on touche du bois juste ici, et je te souhaite le meilleur et félicitations pour cette deuxième nouvelle, parce que un, c'est facile, c'est de l'entraînement, deux, ça commence à devenir un sport national.
C'est ce qu'on a dit, ouais.
donc effectivement, ça prend une partie de l'agenda, et félicitations à maman aussi. Merci beaucoup, Aurélien. Et
puis,
comme on dit par chez moi, je te dis à très vite parce que il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Voilà.
Ça marche. À bientôt.
Merci. Salut. Ciao, ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.